Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il y a un truc, je suis désolé.
Oui.
C'est pas Oscar Wilde, mais c'est Oscar Wilde.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si, au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible. Elle a séché, c'est terminé.
Oui. On doit faire fi de tous les égos, et ben on va le faire parce que le plus important, c'est Nantes qui reste en Liga.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Avec ce soir autour de la table, Kevin Diaz. Salut KD.
Hi everyone.
Bonsoir Olé Dacharchour.
Salut Nico, salut à tous.
Et bonsoir pour sa deuxième, Elton Mokolo. Salut Elton.
Salut Nico, salut à tous.
Plaisir de vous retrouver les amis, on est ensemble jusqu'à 22h. Vous le savez, au programme de Génération After ce soir, notamment cette question dans un instant après les deux matchs de l'équipe de France. Kylian Mbappé a-t-il le bon comportement, le comportement d'un capitaine? A-t-il l'âme également d'un leader, d'un homme qui porte le brassard? Randal Kolo Muani, très bon contre le Chili hier soir. Est-ce que ce match peut être un déclic pour lui en bleu et au PSG? Et également pour Luis Enrique. Lamine Yamal, on va en parler ce soir. Est-il le danger numéro 1 pour le PSG avant le quart de finale de Ligue des Champions? Il a rendu folle la défense brésilienne hier. Phénoménal avec l'Espagne, acclamé par Bernabéu. Fred Hamel sera aussi avec nous pour nous parler de la... C'est plus qu'une hype autour de ce jeune joueur espagnol. On lance notre semaine spéciale OM PSG. Ce soir, cette question, la trêve internationale a-t-elle tué la fin de saison de l'OM? Infirmerie bondée, défense décimée avant une série de matchs décisifs au mois d'avril. Et puis tiens, autre sujet différent, décalé ce soir dans Génération After. Comment motiver ses élèves grâce au football? Un prof de sport a fait grimper les résultats scolaires de manière spectaculaire de sa classe, de la 6e à la 3e, en REP+. Il nous dira comment il a fait, ce sera à 21h30. Et puis, c'est le retour du footballeur masqué ce soir, à partir de 21h45. Qui se cache? Qui sera derrière le masque ce soir? Tu vas découvrir ça, Elton. Tu as sûrement déjà écouté en direct ou en podcast. Walid, s'il est bon sur les quiz, il est très mauvais sur footballeur masqué.
Je me souviens surtout d'Aubraniac avec Walid.
Ah oui, c'était extraordinaire. Ouais,
extraordinaire.
Ouais. Il est le plus rapide, mais il a quoi? Deux points seulement.
Tu lui as le choucourt de...
Ou le Wirtz.
Ou le
frit, comme dirait Daniel.
Ouais, ouais.
Taylor Fritz.
Voilà pour Génération After. À 22h, l'After avec Thibaut Jeungrand. Salut Thibaut.
Salut tout le monde. Stéphane Guy, ce soir, et Florent Gautreau en direct à partir de 22h. On va refermer, comme vous, cette page internationale et avec plaisir. Stéphane Guy nous dira qu'il n'est pas inquiet pour les Bleus. On parlera de Kolo Muani avec Flo Gautreau qui insiste sur le fait que ce n'est pas un numéro 9. On en débat avec vous. Et puis après, à partir de 22h30, on aura les drôles de dames qui seront là pour présenter les, en détail les adversaires des Bleus. Maintenant, on a le groupe complet pour l'Euro, la Pologne qui a rejoint l'Autriche et les Pays-Bas. Et puis, à partir de 23h, suite de notre semaine Paris Saint-Germain, êtes-vous toujours excité par ce match? Et puis, quel 11 de départ pour l'Olympique de Marseille? J'ai envie de vous dire rendez-vous à 22h.
Je vais écouter les drôles de dames parce que moi, ce rassemblement m'a excité.
Ah bon?
En vue de l'Euro. Ouais.
Ah,
ouais.
Pas que des Bleus, tu parles des autres sélections, tout ça.
Les nouveaux maillots, les nouvelles tenues, là, les joueurs, même les confrontations qui ont été intéressantes.
T'as l'impression que c'est la rentrée fictive,
Ouais, Brésil-Angleterre, Brésil-Espagne, Pays-Bas-Allemagne hier, France-Allemagne. J'aime ça. Même l'Angleterre-Belgique.
Et le reste bœuf, du coup, par rapport au reste de l'émission. Ce soir, on est sur les drôles de dames.
Non, le temps de rentrer, parce que je vais rentrer.
Et il écoute un podcast quand il fait son footing le matin à chaque fois. Quand il court ses 20 km, Walid, il écoute le podcast de l'After.
Encore de la condescendance de Nico Jamin. 20h04. On a démarré à 20h04 ce soir.
Merci Thibaut, tout à l'heure à 22h avec Stéphane et Flo. Demain soir, vous le savez, le quiz de l'After Food, comme tous les jeudis soirs, nous vous offrons votre bomber shot. Pour vous inscrire et participer avec une des deux équipes, vous envoyez quiz au 732-16, quiz avec un seul Z au 732-16. Et puis je vous rappelle également Billboard.
Jouer et gagner sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Et puis je vous rappelle également, c'est le retour du coffre RMC. Nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros dès que vous entendez ce signal-là. Vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16, vendredi 29 mars. L'un ou l'une d'entre vous sera dans l'émission avec nous pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2 500 euros, mais vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Pour gagner soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Envoyez coffre au 732-16. L'alerte peut tomber à tout moment dans la soirée, même pendant la pause. Voilà, vous êtes prévenus. Soyez à l'écoute de Génération After. Alors, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, pardon. Il a traversé, on en a parlé hier déjà, comme un fantôme, la fenêtre internationale contre l'Allemagne, contre le Chili, 0 but, pas de différence. J'ai vu une stat tout à l'heure passer, 39 ballons perdus sur le rassemblement. C'est l'équivalent d'un ballon perdu toutes les 4 minutes. Voilà un des bilans de Kylian Mbappé sur cette trêve internationale. Il a plus brillé en conférence de presse, assumant, comme il le dit, ses responsabilités de capitaine, mais il ne l'a pas fait sur le terrain. Est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur de son statut, dans son attitude, son comportement de capitaine? Vous nous appelez au 32-16 pour vous mêler au débat. Bien sûr, la question qu'on poussera un peu plus loin, c'est est-ce que le choix très critiqué à l'époque de Deschamps s'avère-t-il le bon? Je commence avec toi, Kevin.
Écoute,
il t'a déçu ou pas?
Je ne vais pas dire qui m'a déçu, parce que j'en ai parlé d'ailleurs après le premier match de l'équipe de France face à l'Allemagne. Même si les gens ont toujours du mal, hein, y a toujours des gens qui comprennent de façon un peu étrange les propos. Mais moi, je crois que Kylian Mbappé, il faut que lui-même il arrive à comprendre ce qu'il sait faire et ce qu'il sait pas faire. Le problème de ces genres de joueurs, c'est qu'ils pensent savoir tout faire. Et c'est dans leur ego, c'est dans leur personnalité, c'est dans leur caractère de champion. Mais Kylian Mbappé, comme tous les joueurs de foot, est un joueur qui a des axes d'amélioration. Et un de ses axes d'amélioration, c'est jouer avec ses qualités. C'est un joueur...
Je crois que tu allais dire avec ses coéquipiers, moi.
On peut en venir là. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est bon, justement, quand il est dans une forme de simplicité, d'efficacité, et qui joue pour lui, mais aussi pour le collectif. Plus que jouer pour ses coéquipiers, c'est juste continuer de jouer pour lui, parce que s'il est bon, son équipe, elle va être bonne et il va être décisif. Et à partir du moment où Mbappé, contrairement à ce qu'il croit, contrairement à ce que les fans de Mbappé croient, Mbappé, c'est pas Messi. Mbappé, c'est pas Ronaldinho. Mbappé, c'est, et je le dis depuis le début de sa carrière, et c'est un compliment pour moi ultime, parce que c'est un de mes joueurs préférés, c'est Thierry Henry. Et Thierry Henry, si vous regardez les vidéos de Thierry Henry, oui, il y a une fin de passe de temps en temps, oui, il y a un crochet ou un passement de jambe, mais c'est un joueur qui était chirurgical. Contrôle, appui, remise, accélération, contrôle dans la course, intérieur du pied, but. Et c'est ça que doit devenir Kylian Mbappé.
Là, tu parles du joueur, toi. Moi, je te parle du leader qui doit être au-delà de son brassard.
Mais c'est ça.
Le comportement qui doit inspirer aux autres.
Mais tu ne peux être qu'un leader quand tu es irréprochable sur le terrain. C'est pour ça que c'est pas souvent des numéros 9 qui sont capitaines ou des ailiers. C'est souvent des défenseurs centraux. C'est souvent des gardiens ou des milieux de terrain défensifs. Parce que c'est des joueurs, contrôle, passe, je joue sobre, je perds peu de ballons. Quand tu veux être un exemple, il faut être exemplaire. Sinon, tu peux pas te prétendre un leader en perdant 46 ballons sur deux matchs. C'est pas possible. L'exemplarité, ça se mérite. C'est pas quelque chose qu'on te donne parce que t'as le brassard.
Ah, mais attention pour moi, Kevin, attention à ne pas faire de raccourcis, parce que j'ai pas envie qu'on sanctionne le Kylian Mbappé capitaine parce que le Kylian Mbappé joueur a été mauvais. Je pense qu'on parle de deux choses différentes, à savoir que moi, effectivement, sur les deux performances, pour moi, c'est un rassemblement à oublier pour Kylian Mbappé, et j'insiste là-dessus. Par contre, sur son capitanat, moi, j'ai juste qu'il est encore en apprentissage, et par rapport à ça, moi, j'ai des éléments positifs à mettre en avant. Le fait que, par exemple, il se présente en conférence de presse, spontanément, après la défaite face à l'Allemagne, pour moi, c'est rassurant parce que il est dans l'explication, il est dans le fait d'assumer, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont expliqué ce n'était qu'un match amical. Kylian Mbappé t'a expliqué qu'il y avait des enseignements à tirer malgré le fait que ce soit un match amical. Ça m'intéresse par rapport à la figure de Kylian Mbappé capitaine. Maintenant, sur la figure Kylian Mbappé joueur, là, pour le coup, effectivement, je suis d'accord avec toi, je peux pas être satisfait. Mais j'ai pas envie non plus de faire un énorme raccourci et de punir le Kylian Mbappé capitaine parce que le joueur n'a pas été bon.
Non, mais le gros problème, Elton, c'est qu'il y a une énorme différence entre ce qu'il fait en conférence de presse sur le rassemblement qui est vraiment positif pour le groupe, ouais, et notamment sur la deuxième où il vient faire un état des lieux critique. En plus, nous, on avait fait beaucoup de débats après le match contre l'Allemagne, et il vient appuyer ce qu'on dit. Donc moi, je trouve que c'est très très intéressant, où il dit on doit pas se satisfaire de ça, on doit faire beaucoup mieux dans l'attitude. Sauf qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait le lendemain. Et ça, moi, ça me dérange. C'est-à-dire que dans l'histoire de leader, capitaine, ce que vous voulez, dans ce que tu dois apporter en tant que Kylian Mbappé, avec le standing que tu as et l'importance que tu as dans le groupe, tu peux pas faire le match que t'as fait hier soir.
Oui, ça,
autant
c'est vrai.
Le match contre l'Allemagne, oui, oui. Pour moi, c'est pas forcément une histoire d'attitude. Je trouve qu'il a été battu par Kimmich et que l'Allemagne a été battue. Enfin, que l'Allemagne a montré beaucoup plus de choses et l'équipe de France n'a pas réussi à être dans la réaction. Mais sur le match contre le Chili, il se fout de nous. Hier, sincèrement, il balance le match, il s'aborde le match, il en a strictement rien rien à faire, il fait 2-3 courses vers l'avant, pas
moi,
plus.
Je ne crois pas, moi j'ai entendu ça, mais moi je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que Kylian Mbappé balance le match d'hier.
Bah hier, en tout cas, moi il me donne le sentiment qu'il n'a pas envie d'être là, ou en tout cas que c'est pas un match important.
Non, au contraire, je pense qu'il a, presque pour lui
beaucoup
pour
de frustration envers ses coéquipiers.
Pour lui, il a peu joué sur les dernières semaines avec le Paris Saint-Germain par rapport à ce qu'il est habitué de faire. Et pour moi, il avait envie de jouer avec l'équipe de France. Pour moi, ce n'est pas une question d'envie.
En tout cas, il l'a pas montré.
Pour, moi, c'est pas une question d'envie. C'est une question d'animation. Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est tributaire de l'équipe. Mais lui, en réclamant le fait d'être capitaine, parce que je pense qu'il a quand même eu envie d'être le capitaine de l'équipe de France. Et ça, c'est normal. Mais il y a un moment, ce n'est pas le capitaine de l'équipe de France. Ce n'est pas le leader de l'équipe de France. C'est le finisseur de l'équipe de France. C'est lui qui finit les actions. C'est lui qui est à la finition du travail collectif mis en place, notamment par Antoine Griezmann quand il est en forme. Antoine Griezmann a eu aussi des moins bonnes périodes, des moins bons matchs, la finale de la Coupe du Monde, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème.
Il a été le leader en finale de la Coupe du Monde.
On attend que ça de Mbappé.
Non, Mbappé n'est pas le leader, il est le déclencheur, il est le finisseur.
Pourquoi il est capitaine alors,
Kevin? Il est le réveil.
Pourquoi
il est capitaine? Parce que
c'est, voulait absolument, sinon ça aurait été un problème.
Non, parce que c'est un, parce qu'il a un entraîneur qui est un politique. Didier Deschamps, c'est un manager avant d'être un entraîneur.
Après,
Didier Deschamps n'est pas un entraîneur, c'est un sélectionneur, un manager hors pair. Et il savait que pour sa sélection, pour son management, il pensait que c'était plus simple de mettre Kylian Mbappé comme capitaine. Et non pas son fils spirituel. Et le joueur qu'il apprécie depuis le premier jour en équipe de France, Antoine Griezmann, avec qui il a la même mentalité, un gars qui joue pour les autres, un gars qui est collectif, un gars à qui tu n'as jamais à reprocher le moindre envie, le moindre, comme t'as dit, geste d'agacement. C'est très rare de voir ça de la part d'Antoine Griezmann. C'est un leader naturel. Kylian Mbappé est un leader forcé.
Mais tu penses qu'Mbappé, de par ses performances, il ne le devient pas et il ne doit pas l'être?
Non. Tu ne deviens jamais un leader par tes performances. Tu deviens un vrai leader parce que tu apportes au quotidien, au groupe.
Oui, mais moi, je pense est-ce qu'on ne peut pas atteindre ça de lui, justement?
Mais c'est très difficile.
Kylian Mbappé qui vient en conférence de presse, qui porte un discours,
qui parle d'excellence. Si tu regardes Cristiano Ronaldo, si tu regardes Messi, ils ont tous été capitaines au final.
Mais justement, par leur performance. Ouais, mais pour moi, Kevin, le parallèle est intéressant parce que quasiment au même âge, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont souffert de la comparaison avec leurs aînés. Je veux dire, Cristiano Ronaldo passé après la génération dorée Figo, Baia, il y a eu beaucoup de critiques sur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Dans le pays qui a vu Passarella, Diego Maradona, on l'a accusé de ne pas être un leader pendant très longtemps. On ne comprenait pas pourquoi Mascherano n'était pas le capitaine. Je veux dire par là, d'autres c'est joueurs normal. Et des joueurs historiques du football ont souffert de ça. C'est-à-dire qu'ils étaient en quête de légitimité.
Mais quand Kylian Mbappé est en train ces joueurs-là, très bon exemple, encore une fois. Oui, ces joueurs-là, à quel moment de leur carrière ils ont gagné un trophée avec leur sélection?
Tardivement.
À la fin.
Peut-être que ce choix
du capitana n'était pas bon, peut-être.
Ah non, pour moi c'est un processus et Kylian Mbappé est dans un processus.
C'est pas un processus, il a déjà gagné la Ligue des Champions pour lui.
On donne le brassard, Elton, je pense, à un homme qui est prêt à, qui est suffisamment mûr pour le prendre, le brassard.
Ah mais pour moi,
tout à l'heure t'as dit, il est en développement. Il est en apprentissage du brassard. Le brassard, tu réfléchis pas, c'est un taulier.
Le brassard, tu l'as quand t'es prêt. Moment où tu vas peut-être être prêt.
C'est pas une formation, le brassard.
Non, mais je suis d'accord. Pour moi, ça soulève un problème qu'on a très peu évoqué, c'est qu'aujourd'hui l'équipe de France est en train de se chercher de nouveaux leaders. C'est pas anodin que l'année dernière.
Le leader de cette génération, celui qui fera le pas, la passerelle, c'est plus complexe que ça.
Parce que l'année dernière, Deschamps, déjà au micro d'RMC Sport, disait il aurait voulu que Varane continue parce qu'il comprend bien que le fait d'avoir de nouveaux leaders, c'est pas aussi
évident. Il ne donne pas à Varane si Varane continue.
Ah, ça, je suis pas persuadé.
Moi, je pense qu'il le donne à Mbappé.
Allez, pause. On prolonge dans un instant avec vous au 32-16 également, Philippe Arrivé. Ah, déjà ?
Eh ben, dis donc.
Je dis qu'il faut tomber à tout moment. C'est l'alerte pour le coffre RMC. C'est le moment de vous inscrire. Et vous avez 5 minutes pour cela. Il faut envoyer coffre au 732-16. Coffre par SMS au 732-16 pour essayer de gagner 50 000 euros et être avec nous vendredi pour ouvrir ou pas, d'ailleurs, le coffre RMC. Pour y aller, il y en a pour 5 minutes désormais. Envoyez vos SMS. Pause. On va dans un instant. On prolonge sur Mbappé. Il y a des appels au 32-16. Vous êtes nombreux également à agir sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour vous abonner, pour nous voir et commenter dans le chat. A tout de suite sur RMC, c'est Génération After.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Olivier Descherchour et Elton Mokolo. On parle de Kylian Mbappé. A-t-il le comportement d'un capitaine? Des gens s'est-il planté, en fait, tout simplement, en le nommant? Et est-ce vraiment si important que ça? Vous nous appelez au 32-16. Tiens, je vais accueillir Philippe, justement, qui nous rejoint. Salut Philippe.
Les gars, ça va?
Salut Philippe.
Salut, bienvenue dans Génération After avec Walid, Elton et Kevin. Supporter de Porto d'ailleurs.
Exactement.
T'as eu des grands capitaines à Porto, toi, hein?
Oui. Bah, de ma génération, oui, parce que j'ai commencé à regarder dans les années 2010, donc.
Assez jeune. Assez jeune. Bon, alors, est-ce que tu penses que Mbappé a l'étoffe pour être plus qu'un capitaine, aussi un leader de l'équipe de France? Pas que technique, hein, je parle.
Non, bien sûr. Mais déjà, pour commencer, en tant que capitaine, pas du tout. Les deux derniers matchs que j'ai regardé de l'équipe de France, c'était vraiment une impression que j'ai eue. Enfin, j'avais l'impression qu'il se faisait chier, quoi. J'avais l'impression qu'il était là juste par figuration, par obligation, on va dire. Et le problème, c'est que quand on est capitaine et qu'on n'a pas l'envie, en fait, on traîne complètement toute son équipe vers le bas. Et vu qu'il y en avait, on va dire, un peu rien à faire, j'exagère mes propos, mais en fait, j'avais l'impression que c'était toute l'équipe qui était dans cette sorte d'ambiance, de cette sorte de mentalité vraiment pas bon et qui a fait que ça n'a pas du tout marché dans les deux matchs, quoi, tout simplement. Et malheureusement, quand on vous parle de Ronaldo, il y a quelques instants, Ronaldo, j'ai vu beaucoup de matchs de sa part, et peu importe le match, même quand c'était contre des équipes, on va dire, faibles, et même s'il n'était pas bon, puisque c'est arrivé qu'il ne soit pas bon, il avait cette hargne, cette envie, et qui fait qu'il poussait les autres joueurs avec lui. Or, là, en fait, je n'ai pas vu cette mentalité-là en fait, de Mbappé, parce qu'il a le droit d'être pas bon, d'être dans un mauvais jour. Mais par contre, il ne peut pas avoir cette mentalité et je trouve que ça ne va pas du tout avec l'équipe de France et en plus avec l'esprit de Deschamps. C'est surtout ça.
C'est vrai, Philippe. Alors, il y a beaucoup de réactions. Hein. On nous reproche notamment de tirer des conclusions après deux matchs, seulement deux matchs amicaux, sans enjeu, autour du comportement de Mbappé.
Mais en fait, il faudrait faire quoi, Nico? C'est-à-dire que si on dit rien après ces deux matchs-là.
C'est ce que j'allais dire.
En fait, c'est quoi notre boulot? Je suis désolé, mais.
Après, voyons, ouais, c'est ce qui
est global. Non, mais au-delà de ça, si en fait, on fait semblant, on ferme les yeux devant ces deux matchs-là. Mais en fait, on manque de respect à Mbappé, on manque de respect au capitana de l'équipe de France et on manque de respect à l'équipe de France. On espère que Kylian Mbappé, et on ne doute pas que Kylian Mbappé va faire un très très bel euro et qu'il va nous emmener très très loin comme d'habitude. Mais quand ça se passe mal et quand entre les actes, entre les paroles et les actes, il y a une énorme différence, on doit le dire, on ne doit pas passer ça sous silence. Je suis désolé, moi, au-delà des débats, brassard de capitaine.
Parce qu'on est exigeant avec lui aussi, parce qu'on sait qui il est et ce qu'il peut
mais
faire.
Mais bien sûr, et puis par rapport à ce qu'il dit, quand il arrive en conférence de presse et qu'il est pertinent et qu'il dit non, mais attendez, les gars, si on va avec cette attitude-là à l'euro, mais on va se manger un mur, les gars. C'est en gros ce qu'il nous explique. Et que deux jours après, il a Mauricio Isla et qu'il lui fait pas une différence. Moi, tu sais, j'aime bien, moi, on en parle souvent avec Elton, mais Djoko, il joue un mec 200e mondial. Eh ben, j'aime bien qu'il lui mette 1 et 1. Parce que exactement, c'est Djokovic. Ouais. J'ai pas envie que ça se termine. La même chose pour Tyson Fury et Ngannou. Quand il a été au point, là, mais... ça m'a fait chier. Parce que moi, j'ai envie de voir, encore une fois, la supériorité.
Mais attention, parce que le football, ça reste, je vais pas vous l'apprendre, c'est un sport collectif quand même.
Oui, impression individuelle.
Non, mais je me répète. Si la question, c'est sur le capitana, est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est à remettre en cause? Moi, je l'ai remis en cause le jour même où il a été nommé. J'ai pas attendu le match contre Isla ou contre le Chili ou même contre l'Allemagne. Donc, à partir de là, ça, c'était pour répondre à Elton. Pour moi, âge, pas âge, à partir du moment où il y a quelqu'un comme Griezmann dans ton groupe et la relation qu'il a avec ce sélectionneur, je ne parle pas uniquement de Kylian Mbappé, mais tu vois, s'il y a un gars comme Griezmann dans un groupe qui a telle relation, tel rapport au football, aussi cohérent avec l'entraîneur en place ou le sélectionneur en place, incompréhensible pour moi de faire un autre choix qu'Antoine Griezmann. Mbappé, Maradona.
Mais ça, on est d'accord.
Attends, Philippe veut dire un mot.
Une fois qu'on a dit ça, moi je ne reproche pas le match de Kylian Mbappé hier. C'est pas que ça me dérange pas. Bien sûr, je préfère voir Kylian Mbappé meilleur. Mais pour moi, il reste. Non, mais moi, je ne remets pas en cause son attitude. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est pas l'attitude le problème. Le problème, c'est la façon dont il se voit par rapport au football. Et quand son équipe est en difficulté, il pense que ça va être le sauveur. Mais ça, c'est pas forcément avoir une mauvaise attitude. C'est ce que je disais au début. C'est ne pas savoir là où tu es le meilleur et dans quelles conditions tu peux vraiment apporter à l'équipe.
Kevin. Quand ton équipe est en difficulté. Toi, tu l'as pas vu à 30% hier soir.
Tu galopes pas une sélection. C'est
important. Tu l'as vu à 100% hier soir.
Je
refuse le mot galvauder pour les deux matchs de Kylian Mbappé.
C'est ton avis.
Pour moi, c'est faux.
Philippe voulait dire quelque chose.
Ouais, moi, en fait, là où j'ai un gros souci, et c'est depuis le début, En fait, c'est le choix de Deschamps. Moi, je ne comprends pas et je pense que ça a été limite par obligation qu'il a pris Mbappé en tant que capitaine. Et pourtant, ce n'est pas du tout la vision de Deschamps qu'il a à la base dans son jeu. Et vous l'avez dit plein de fois, normalement, à la base, et même à 100%, normalement, c'était Griezmann qui devait être capitaine. Et je pense qu'à sa place, il ne le dira jamais, mais je pense qu'à sa place, il doit avoir vraiment la haine, si on veut jouer des gros mots, qu'il n'est pas capitaine, parce qu'en fait, il a tout pour être un capitaine.
Non mais ça, on l'a expliqué à plusieurs reprises. Maintenant, Mbappé est capitaine.
Oui, mais il y a double débat.
Non, mais on l'a déjà dit avec Kevin.
Parce qu'être capitaine, ça dessert Kylian Mbappé.
Après ça, moi, je suis pas persuadé. Moi, je m'inscris en faux contre ça, parce que encore une fois, on peut pas préjuger de ce qui va se passer dans le futur. Kylian Mbappé est en apprentissage par rapport à son capitaine.
On te l'a dit. Il y a pas d'apprentissage.
Bah pour moi, il y a un apprentissage. C'est-à-dire
t'es le leader de l'équipe ou tu l'es pas.
Non, moi, j'ai évoqué des exemples comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, qui ont appris à être capitaine à leur manière. Kylian Mbappé va être confronté à l'occasion de l'Euro
non,
à un premier
rassemblement. Moi, je te dis, Messi et Ronaldo, ils sont capitaines du Portugal et de l'Argentine, tout simplement pour satisfaire leur ego.
Kevin,
ils sont pas leaders.
Sans parler de Cristiano Ronaldo, et Lionel Messi.
À l'instant où ils sont capitaines.
Non, mais plus près de nous, on a fait un procès en légitimité à Hugo Lloris, à Raphaël Varane. Souvenez-vous des débats sur Raphaël Varane près 2018, en expliquant, oui, voilà, c'était le petit de Sergio Ramos. Il n'avait pas l'étoffe d'un leader. Il avait le même âge que Kylian Mbappé. On a fait le procès en légitimité de Paul Pogba. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé, il s'inscrit dans le même chemin qu'eux. Et aujourd'hui, on est en train de regretter et Pogba et Raphaël Varane et même Hugo Lloris.
Oui, mais le problème, c'est qu'Elton,
c'est toi qui as nommé ces joueurs-là.
Non, mais moi, je les nomme pour expliquer qu'en fait, il n'y a pas une fatalité à ce que. Il y a un joueur qui découvre.
On a fait un procès.
Voilà, je généralise parce que il y avait des débats sur le fait que est-ce que Raphaël Varane
pouvait être un joueur.
Bah oui, il y aura toujours des débats. Donc c'est pour ça que Kylian Mbappé, pour moi, ne sera pas une réalité.
Non mais moi la réalité c'est que en fait moi là je suis d'accord avec Kevin sur le débat du brassard de capitaine, mais on va pas revenir éternellement
là-dessus. Tu vas te dire quand je dis qu'il y a un double débat.
Oui, non mais moi je suis d'accord avec toi, je suis ton équipe sur le côté où pour moi de toute façon on l'a déjà répété. Deschamps a fait de la politique, le leader naturel est pour moi le capitaine naturel et moi c'est ce que j'aime, c'est on a été élevé comme ça, c'est-à-dire t'attends ton tour, ta génération tu vas l'avoir Kylian Mbappé et Kylian Mbappé n'était pas à une compétition ou deux compétitions près de prendre le brassard de capitaine et moi pour moi Griezmann c'était son tour, il l'a pas eu. Maintenant, c'est fait. Mais la réalité, moi, ce qui me dérange, c'est que maintenant qu'il l'a eu, Kylian Mbappé, ce capitaine, légitime ou pas légitime, leader ou pas leader, on va pas revenir dessus éternellement. C'est qu'est-ce que tu en fais de ce brassard de capitaine? Et moi, je
m'inscris. Tu n'en feras rien si t'es pas prêt.
Mais, et le problème, c'est que, au-delà d'être prêt ou pas, c'est que moi, je trouve que, en conférence de presse, il est parfait. Quand il parle, il est parfait. Mais sur le terrain, pour l'instant, il n'a pas l'attitude d'un leader et il n'a pas l'exemplarité d'un leader. Alors peut-être que c'était uniquement parce que c'était des matchs amicaux et qu'on va voir à l'Euro, comme tu as dit, ça fait peut-être partie de son apprentissage, même si j'ai du mal à y croire.
Mais on verra
ce qui se passera. Mais si à l'Euro, il a la bonne attitude et que c'est un leader, ça me dérange encore plus ce qui s'est passé sur ce rassemblement.
Et puis ça raconte aussi sa personnalité. David nous rappelle sur le chat de la chaîne YouTube de l'After qu'au PSG, il a contribué à faire refaire le vote s'il n'était pas nommé capitaine.
Oui, ça c'est notre histoire.
Oui, non, mais c'est pour lui c'est une obsession.
Mais moi je suis d'accord.
Je suis le meilleur joueur, donc j'ai le brassard. Voilà.
Je suis d'accord avec Kevin. Allez. Sur le meilleur joueur doit avoir le brassard. Non, moi je suis pas. Ça me dérange.
C'est une question d'ego.
Oui, c'est une question
qui soulèvera la coupe s'ils sont champions.
Oui, aussi.
Tout. Qui sera sur la photo éternellement. C'est juste ça.
Et pour éviter les problèmes, il faut ménager des égos.
Ou le vrai capitaine, c'est pas celui.
Mais à partir du moment où tu as eu le brassard, tu dois avoir ce comportement-là.
Tout le temps.
Donc moi encore une fois, si Mbappé il l'a pris, enfin il l'a pas pris, Deschamps lui a donné. À un moment donné, dès que tu l'as, là tu dois l'être. Et là, Mbappé, pour l'instant, il ne l'est pas. Attends, ça me dérange.
Après Walid, la question à se poser après les Pays-Bas, quand il est extraordinaire,
elle se pose à tous les rassemblements.
Non, mais la question se posait pas face à Gibraltar.
Il est pas venu. Par exemple, la double. Quand tu parles du match des Pays-Bas, ça se posait peut-être pas sur le terrain, mais ça se posait en conférence de presse parce que c'est quelqu'un qui était dans la polémique, comme c'était souvent le cas, pas toujours de sa faute, mais les choix sportifs, pas sportifs, transfert, pas transfert. Donc, il n'est pas venu comme le capitaine de l'équipe de France est censé venir parce que il était dans ce genre de polémique.
Fais attention à ne pas faire de lien de cause à effet parce que si Kylian Mbappé n'est pas bon sur le terrain, ça ne veut pas dire que le Kylian Mbappé capitaine est illégitime.
C'est juste ça. Bon ou pas bon, Elton, il y a aussi l'attitude, moi, que je décris.
Oui, l'attitude.
Avec lequel on est en
désaccord avec Kevin.
Sur deux matchs
mais moi, j'ai vu une attitude désinvolte de la part de Mbappé.
Merci, Philippe, d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux, n'hésite pas. Bonne soirée à toi sur RMC. Dans un instant, on va parler de Randal Kolo Muani. En revanche, il a été bon hier. Est-ce que ce match avec les Bleus face au Chili peut être un déclic pour lui et pour Luis Enrique?
En parlant d'attitude et de niveau, il faudra qu'on reparle aussi d'un autre joueur de l'équipe de France.
Demain, rendez-vous, on parlera de Aurélien Tchouaméni. Walid va en parler absolument.
C'est un teaser.
L'ancien Bordelais.
Non plus de Tchouaméni.
Non, ni son niveau.
C'est le niveau. Mais il a même des gros doutes sur le niveau global de Tchouaméni.
Il peut faire bien plus, oui. Il se prend pour ce qu'il n'est pas actuellement. Allez, avec l'équipe de France.
Dans un instant, Randal Kolo Muani et puis Marseille aussi à partir de 21h. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et Elton Mokolo. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16, commenter dans le chat de la chaîne YouTube de l'After. Parlons maintenant d'un bon match, parlons positif, de Randal Kolo Muani. Sauf si vous avez des critiques à faire sur son activité hier. En tout cas, elle a été importante. Un but, une passe décisive, une vraie passe décisive. On a fait le débat hier avec Daniel qui estime que la passe de Mbappé n'est pas une passe décisive. Peu importe.
D'accord avec lui. Là-dessus, je suis d'accord.
Oui, il a raison.
Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on fasse au moins dans l'after une différence entre la passe décisive, celle qui a créé le décalage, celle qui a vraiment mis son partenaire dans les meilleures conditions, souvent pour une finition d'ailleurs à
Théo Hernandez ou Randal Kolo Muani.
À une ou deux touches, ça c'est souvent la bonne passe décisive, ou la dernière passe, qui est vraiment juste la passe où le gars
l'assiste quoi à l'anglaise.
Voilà,
quoi.
Le gars il fait une passe derrière, il fait une conduite de balle de trois joueurs, il marque. C'est pas une vraie passe.
Alors Kolo Muani qui a sûrement réalisé son meilleur match en bleu et aussi de la saison, équipe de France et PSG confondu. Croyez-vous que ce match peut agir comme un déclic pour lui et pour Luis Enrique d'ailleurs? Vous nous appelez au 32-16 dans un instant. Tiens, il y a Ralil qui sera avec nous également. Déclic ou pas déclic, qu'est-ce que vous a appris la prestation, la performance de Randal Kolo Muani hier, Elton?
Pour moi c'est pas un déclic, mais c'est une manière de rappeler que Kolo Muani est là et qu'il aura un rôle à jouer dans la perspective de l'Euro, parce que je pense que ce rassemblement faisait office de caisson d'oxygène pour Kolo Muani par rapport à sa situation qui est plutôt compliquée du côté du PSG. On avait d'autres attentes, on avait d'autres espérances, et du côté de l'équipe de France on voyait un Kolo Muani qui devait être davantage dans un rôle d'avancante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un an avant on était sur un débat, Kolo Muani peut-il être le 9 de l'équipe de France. Force est de constater que ce n'est pas nécessairement le cas et que c'est dans un autre poste qu'il a trouvé moyen de s'exprimer. Donc moi je pense que c'est pas un déclic, mais c'est une manière de se rassurer pour revendiquer une place dans la perspective de l'Euro, à savoir peut-être pas dans un rôle de titulaire, mais pour moi dans un rôle de joker de luxe.
Ouais, ça peut être un 12e homme très intéressant pour l'équipe de France et même pour le Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a sûrement Barcola qui va rater le Barça. En tout cas, c'est la tendance. C'est un jeu le Barça qui peut lui convenir. Hier, il a répondu présent avec un super état d'esprit. C'est heureusement qu'il était là. Tout à l'heure, on parlait de l'attitude. On a vraiment senti que Kolo Muani jouait quelque chose. Est-ce que les bruits de couloir qui disaient que Deschamps, avant sa sélection, réfléchissait à l'appeler ou non. C'était un peu le seul joueur qui, dans la dynamique, pouvait faire débat et où on pensait, on analysait que Deschamps préservait la vie de groupe et le crédit en équipe de France pour continuer à l'appeler en équipe de France. Et il a répondu présent sur ce match-là où il a fait vraiment un vrai bon match avec Fofana, pour moi, et Théo Hernandez. Ça a été les trois meilleurs français. Mm-hmm. Et puis, dans un style qu'on le connaissait, mais qu'on le voyait de moins en moins sur les dernières semaines, avec beaucoup de personnalité, beaucoup d'allant, des changements de rythme aussi, des changements de rythme qui font très très mal à son adversaire. Et si ça peut lui donner confiance pour une très très bonne fin de saison, pourquoi pas. Maintenant, on va être prudent. Il y a trois jours, on pensait tout l'inverse pour Kolo Muani. C'est pas un match contre le Chili qui va totalement.
Non, mais est-ce que ça peut changer le regard, notamment d'un. Bon, il le voit tous les jours à l'entraînement, d'un Luis Enrique. Je rappelle que Kolo Muani nous l'a dit, pas officiellement, qu'il n'aimait pas jouer neuf.
Non, mais de toute façon,
il n'aime pas jouer dans l'axe.
Kolo Muani, il l'a dit ça.
Non, mais si
on le sait.
S'il y a bien quelque chose qui est clair, c'est que Randal Kolo Muani, neuf ou pas neuf, c'est un joueur qui a besoin d'espace. Il a le même problème que Kylian Mbappé quand il joue numéro 9. Pourquoi aujourd'hui jouer sur un couloir, ça te permet d'avoir plus de liberté? Mais bien sûr que Randal Kolo Muani, depuis Nantes, c'est un joueur qui est très à l'aise. Je le vois à Nantes encore débouler là sur le couloir. Mais c'est parce que ça fait partie de ses qualités intrinsèques.
Mais c'est-à-dire?
C'est un joueur qui a besoin d'espace.
Il a besoin d'avoir le jeu facile.
Par rapport à son profil, pourquoi?
Quand tu es dos à la ligne, Je peux t'en parler. C'est là où je joue. Où je jouais, en tout cas. C'est-à-dire que t'es dos à la ligne, mais t'as tout le terrain face à toi. Quand t'es numéro 9, t'es dos avec deux gardes du corps dans le dos. Tu reçois les ballons, tu prends à chaque fois un train ou un tramway dans le dos. Ensuite, t'as aucun espace, à part faire un appui remise très difficile, surtout en Ligue 1, face au Paris Saint-Germain, qui joue face à des équipes regroupées pour la plupart, où il reste plus que 20 mètres de profondeur, ou 30 maximum, c'est très compliqué. Alors que quand t'es un joueur, c'est Paul Breitner qui avait parlé de ça, une expression un peu à l'ancienne, on appelait avant un attaquant d'aile. C'est exactement ce que sont
un ailier.
Non, c'est pas un ailier. Un ailier, c'est un joueur qui est là pour donner des passes décisives. C'est un joueur qui est là pour être au service du numéro 9. Mais un attaquant d'aile, c'est un gars qui peut profiter du décrochage d'un numéro 9 pour prendre cette autoroute qu'il y a entre le coin du quatrième arbitre, là, tu vois, devant le quatrième arbitre, jusqu'au but adverse.
Après, sur le match, il fait les deux.
Oui, mais quand même, t'as une diagonale qui est énorme. Et à force d'user ton adversaire, parce que t'as pu répéter les courses depuis le côté, notamment tranchante, comme je te dis, où tu pars du côté vers l'axe, c'est beaucoup plus facile.
Après,
que d'aller vers
Kevin,
l'axe. Après,
Kevin, moi, j'entends.
En tout cas, cette zone d'action, elle est claire. C'est là où il est le meilleur, Kylian Mbappé, j'allais dire, mais aussi Randal Kolo Muani, notamment.
Deux profils totalement différents, quand même.
Quand même, deux joueurs qui finalement ont des qualités qui sont bien sûr beaucoup plus grandes pour Kylian Mbappé, mais Kolo Muani, c'est un joueur qui est très bon en mouvement. Et en numéro 9, t'es souvent statique.
Après, Kevin, j'entends bien les revendications de Kolo Muani, ça me fait énormément plaisir, mais est-ce qu'il a la légitimité pour avoir ce rôle-là en équipe de France quand t'as Ousmane Dembélé sur le côté droit, quand t'as Kingsley Coman? Je veux dire par là, Kolo Muani, par la force des choses, il doit s'adapter. Aujourd'hui, il y avait un poste possible, parce que faut pas refaire l'histoire, comme l'a dit Walid. Oui, c'est très bien qu'il soit performant contre le Chili, mais encore une fois, il y avait une place à aller chercher. C'est en tant que numéro 9. Il y a beaucoup de joueurs en équipe de France.
Tu feras pas de charcutier, un charpentier.
Moi j'en ai un. J'en ai un qui a été un joueur historique de l'équipe de France. Champion du monde, champion d'Europe, c'est Lilian Thuram, qui pour lui était un défenseur central, et par la force des choses, il a dû se déplacer en tant que latéral droit. Aujourd'hui, du côté de l'équipe de France, dès que t'as une opportunité, tu dois la saisir. Et si Kolo Muani, il se complaît.
J'entends ce que tu dis, mais ça n'a rien à voir.
Oui, non, mais dans le sens, s'il se complaît, en gros, à se dire que moi, ma seule perspective, c'est ailier droit, alors moi, je vais te dire, dans mon esprit, il passe derrière. Ousmane Dembélé, et qui sait comment. Et pour moi,
c'est pas tous les jours.
Khalil est avec nous, derrière. Salut, Khalil.
Bonsoir l'équipe.
Merci de ta patience, Khalil. Bienvenue dans Génération After.
Ouais, merci. J'ai l'habitude de vous écouter, donc c'est pas un problème. Bah écoutez, moi agréablement surpris, mais pas surpris. Hein. Content. Ouais, même pas surpris, parce que comme était dit juste avant, je crois que c'est Elton. Il est sur la continuité en fait avec l'équipe de France. Randal, il a jamais vraiment déçu depuis la Coupe du Monde. Quand on le met sur le terrain, il fait ses matchs, il essaye de donner le maximum.
Ah, il était sur une dynamique décevante quand même. Hein. Le match contre les Pays-Bas, là-bas où je me suis dit, moi, il va se régaler avec de l'espace, il est passé complètement à côté.
Mais le Pays-Bas, il faut le mettre dans le contexte. Le mec, il signe au PSG, il est là, il joue plus autant, il a plus le même statut, il est remis en question, il sait plus faire une passe, il sait plus contrôler un ballon au Parc des Princes. C'est dur pour lui. Du coup, tu le remets dans un contexte où il doute lui-même de ses capacités. Je lui en veux pas. Moi, perso, je lui en veux pas.
Ah non, mais tu peux ne pas lui en vouloir. Mais par contre, la dynamique, là, il l'a rehaussé en équipe de France.
Il l'a relancé, Walid, si tu veux. Il l'a relancé. Mais moi, j'ai toujours été confiant vis-à-vis de lui parce que pour moi, il a toujours tout donné. Alors, ça arrive de passer à travers certains matchs. Je te l'accorde. Mais hier, il a montré qu'il pouvait encore apporter quelque chose à l'équipe de France en tant qu'attaquant droit. Si on veut préciser, parce qu'il y a eu un débat ailier, attaquant, ailier intérieur. Pour moi, c'est un attaquant droit ou gauche. Dans l'axe, il a besoin d'espace, c'est réel. À Nantes, il en avait besoin. La Bundesliga, c'est un jeu d'espace. Donc, il s'est régalé. Il y avait des grands espaces pour lui. Il revient au Paris Saint-Germain où quand tu joues le PSG, tu as 90% des équipes qui mettent le bus. Donc, pour trouver les espaces, bah, bonne chance. Ça fait plaisir. Donc, moi, en tant que supporter parisien, je suis content parce qu'il y a le Classico dimanche. Avoir un Randal qui va revenir en confiance. Ça peut être que positif. Et juste, je vais laisser un petit truc, rien à voir avec Randal, sur le milieu de terrain hier. Et je pense que ça, c'est pas ce soir, mais je rejoins Walid sur Tchouaméni. Je sais pas vous, parce que on a beaucoup descendu Kylian Mbappé, son statut et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a des joueurs qui n'ont rien donné et qui sont aussi à remettre en question dans cette équipe de France.
T'as raison de le dire.
Et qu'ils s'assoient beaucoup sur leur statut de joueur madrilène ou autre, mais c'est tellement facile de jouer au Real Madrid quand t'as des génies comme Toni Kroos à côté de toi, que t'as l'impression que le mec c'est un génie. Sauf que c'est un très bon joueur, Tchouaméni, c'est un très bon joueur. Mais il y a un moment donné, tu peux pas faire deux matchs comme il a fait contre l'Allemagne.
Et ben, Ali, justement, tu vas faire un bon teasing.
Le match contre le Chili.
Pour voilà, demain, pour ta génération after demain, on le fera.
On en parlera.
T'as teasé l'émission demain.
Ouais, en tout cas, Randall, c'était, pour moi, je suis très content et il faut qu'il continue. Et,
oui.
Et il a sa carte à jouer, en tout cas, pour l'Euro. Si,
et au PSG aussi.
Ouais, au PSG, bien sûr.
Merci, voilà, Ralil.
Merci, les gars.
Très bonne soirée à toi, à très vite. Voilà pour l'équipe de France. Un instant, on parle de l'équipe d'Espagne et d'un joueur, Lamine Yamal, qui a été époustouflant hier face au Brésil. Reste avec nous, Fred. Un mail arrive également. A tout de suite, c'est Génération After sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo et Walid Acharchour. Et nous accueillons dans Génération After Fred Hermel. Bonsoir Fredo.
Ça me rajeunit tout ça. Hola, ah oui, t'as vu, hein. Ça fait bizarre d'être avec vous.
Bah là,
toi, c'est limite, hein.
Bah oui. Moi aussi. Oui, tous les deux.
La génération.
Ouais, c'est bon, Elton, je te développe.
C'est quoi l'histoire?
Fred arrive en studio et puis je sais pas comment il se dit, mais Elton Mokolo, je cherche. Il voit le programme de l'after, je pense.
Bah oui, ouais, c'est ça. Donc j'ai cliqué dessus.
Il clique sur Elton Mokolo et il s'est rendu compte qu'il avait bloqué.
Ah ouais.
Qu'est-ce qu'il y a, donc il a dû. Ouais, j'ai un truc qui m'a pas plu.
Il faut savoir qu'il est supporter du Barça. C'est
ouais, ça dû être ça.
Il est fan du Barça.
C'est ça.
Il y a 2-3 trucs qui l'ont pas plu, je crois, sur le Real.
Il a dû avoir un Barça.
Non, mais peut-être que.
Je crois qu'il y a eu un pénalty non sifflé.
Peut-être un soir, une victoire du Bayern 6-2. Je crois que c'était ça.
Savoir que Fred a plus de comptes bloqués que de followers, je pense.
Ah, mais complètement.
C'est très possible.
Ah mais c'est vrai, hein, c'est un truc de fou. J'ai le blocage facile.
Fred, t'as pas bloqué Lamine Yamal, les Brésiliens non plus. Phénoménal. Première titularisation hier avec la sélection espagnole, préférée à Sarabia à droite.
Bah on comprend.
Sarabia,
j'hésite.
À l'arrivée, il est impliqué sur les 3 buts de l'Espagne, 2 pénalties provoquées, une passe décisive, 9 dribbles tentés, 6 réussis, 18 duels tentés, 11 remportés. Je rappelle, et tu l'as dit plusieurs fois Fredo, hein, le lundi soir, qu'il est né en juillet 2007. Qu'il a 16 ans.
Ouais.
Donc il n'est pas prêt d'avoir 17 ans en fait. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant. Hein. Et, en tout cas, il va être dur à sortir même du 11 de l'équipe d'Espagne. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui en Espagne, Fredo? Est-ce qu'on est déjà dithyrambique? C'est pas nouveau,
oui,
on le connaît. Hein.
Oui, alors l'Espagne s'enflamme facilement, ça on le sait. Mais c'est vrai que ce qu'il fait hier soir au Bernabéu, et le Bernabéu quand même, qui était très madridiste, parce qu'il y avait beaucoup de supporters du Real et beaucoup de supporters du Brésil aussi, parce qu'il y avait quand même plus de joueurs du Real du côté Brésil que du côté espagnol. Il a reçu une énorme ovation quand il est sorti en fin de rencontre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Luis de la Fuente, le sélectionneur, l'a fait sortir, pour qu'il vive ça, cette expérience. En fait, il y a plusieurs analyses qui sont faites en Espagne, au-delà de son talent, etc. Il y a quelque chose qui est ressorti, que moi-même j'ai ressenti hier en le voyant jouer avec la sélection espagnole. C'est que ce type, en fait, il a une qualité incroyable. C'est qu'il joue hier soir contre le Brésil, même si c'est amical, c'est quand même le Brésil. C'est la première fois titulaire avec l'Espagne dans un stade impressionnant comme le Bernabéu, comme s'il jouait dans la rue avec ses copains. Il conserve une insouciance. Ouais. Qui est une qualité énorme dans le football aujourd'hui. Quand vous voyez tous ces joueurs qui ont des dizaines de conseillers, qui pensent à tout, etc. Lui, c'est un gamin qui joue au foot. Et ça, on le sent totalement libéré. Et quand t'es libéré, tu peux tenter les gestes techniques de fou qu'il a fait hier soir. Il a fait des trucs. C'est quand même le Brésil. Alors, c'était pas un Brésil extraordinaire. Mais enfin, c'est quand même le Brésil en face. Il s'est permis des choses que peut-être un joueur avec plus d'expérience je vais quand même pas risquer de louper. Parce que ses gestes techniques sont tellement difficiles qu'il est facile d'être ridicule. Et ben non, lui, il les tente et il y réussit. Et alors, c'est vrai que quand on le voit, il est tout petit, par exemple. On va parler tout à l'heure peut-être d'Hendrick. Tu vois, Hendrick, c'est quand même, un train inférieur assez gros et tout ça. Lui, c'est une petite libellule, Yamal. Et c'est impressionnant comment, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de joueurs comme Lamine Yamal aujourd'hui dans le football.
Confirme.
C'est-à-dire, ce sont des joueurs, comme en espagnol, on appelle ça Kenkaran. Un Kenkaran, c'est qui dribble, en fait. Tu te mets devant, puis paf, là. C'est-à-dire que tu sais, en un contre un, si tu fais une défense en un contre un avec lui, t'es mort. T'es obligé de faire une défense en zone parce qu'il peut te faire la misère, quoi. Donc oui, c'est ça, c'est techniquement, c'est son culot, mais le culot lié à l'insouciance, son plaisir de jouer et sa forme physique. Voilà, il a quelque chose. Alors, Déjà en Espagne, on dit oui, c'est le joueur le plus proche de Messi qu'on ait vu et tout ça. Ça, je veux pas dire ça parce que c'est horrible. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent, même parmi les formateurs du Barça. Mais on a souvent évoqué ces jeunes joueurs qui sortent du Barça. Moi, je me souviens qu'on disait un peu la même chose d'Ansu Fati. Et il en est où aujourd'hui, Ansu Fati? Mais on sent chez Lamine Yamal un petit truc.
Ouais. Il y a un
grain de folie, quelque chose.
Lui-même, il y a un grain technique qui est quand même très différent sur les prises de balles, sur sa capacité à faire marquer, à faire les différences. Là, hier, heureusement que c'est Morata qui vendange quand même pas mal de situations. T'as l'impression qu'il ne se connecte pas de la même manière qu'avec Lewandowski sur les dernières semaines, notamment au Barça. Mais il y a un truc assez époustouflant dans tout ce qu'il réalise. Hier, les vis-à-vis brésiliens ont été en grande difficulté.
Je rappelle au Barça, hein, toi qui vois tous les matchs Elton du Barça, cette saison c'est déjà 39 apparitions à 16 ans, 6 buts, 7 passes décisives. Bon, Elton, t'étais pas surpris, hein, toi qui le vois tous les week-ends jouer.
Ah, pour moi, c'est un mal élevé du football. On l'a vu à l'occasion de la tournée américaine où il rentre face au Milan, il est déjà énorme. Sur le Gamper face à Tottenham, il est énorme. Il retourne le match. Alors, on pourrait se dire, c'est Gamper, c'est un trophée qui est honorifique pour le Barça.
C'est le trophée d'été.
Le trophée d'été, exactement. Mais toujours est-il que faire ça, à ce moment-là, c'est très impressionnant. Et moi, ce qui a été encore plus impressionnant, c'est que après la séquence super Coupe d'Espagne, lourde défaite contre le Real Madrid, après la défaite en Coupe d'Espagne face à Bilbao, et ben il a fait partie de ceux qui ont relevé cette équipe qui, depuis la défaite face à Bilbao et Villarreal, est invaincu. Donc moi, j'accorde beaucoup de mérite parce que effectivement, techniquement, il est incroyable, c'est un mal élevé du football, et moi, c'est mentalement, parce que relever cette équipe, pour moi, c'était une saison qui était quasiment morte parce que le Real est encore et toujours loin en Liga. En Ligue des Champions, tu n'avais pas beaucoup de perspectives, tu étais éliminé en Coupe. Et le fait d'avoir un joueur qui ait ce rendement et qui ait cette influence-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs du Barça qui regardent davantage Lamine Yamal qu'au mois de septembre.
Et oui, ça, et d'ailleurs, il y a eu aujourd'hui les copains du journal AS qui sont toujours très bien informés sur la sélection. Joaquim Arroto, le grand spécialiste de la sélection, disait qu'en fait, il y a eu un moment où il avait un peu moins la confiance de Xavi entre décembre et janvier, Lamine Yamal, et que là, Luis de la Fuente l'aurait appelé en disant « t'inquiète pas, tu seras à l'Euro
». Ça paraît inévitable.
À un moment, il joue moins en Barça.
C'est inévitable.
Et donc, ça, automatiquement, enfin pour ton moral, quand ton sélectionneur qui te dit, même si c'est pas le plus grand sélectionneur de tous les temps, hein, Luis de la Fuente, mais enfin, t'as le type qui va faire la liste, qui te dit « t'inquiète pas, même si tu joues un peu moins Barça, t'inquiète pas, tu seras là ».
Quand tu vois le match contre le Napoli notamment, il y a très peu de joueurs espagnols offensivement qui sont capables de faire ça aujourd'hui.
Non, mais surtout dans cette génération-là. Parce que quand tu vois le 11 du Barça, de la sélection, c'est quand même pas très...
Oui,
il y a un
Nico Williams, j'aime bien, moi, par exemple.
Quand on parle de technique chez un footballeur, chez un jeune footballeur, notamment chez les joueurs qui sont dribbleurs, c'est Daniel qui parlait fort justement cette semaine des qualités techniques qui ont été quand même bien en dessous de la part des Français par rapport aux Allemands. Et justement, moi, Lamine Yamal, je sais pas ce que vous en pensez, il me fait un peu penser à Jamal Musiala parce qu'il a un côté délié.
Oui.
Parce que pour moi, la technique, il y a, tu vois, par exemple, Dembélé, il a une technique de dribbleur, mais qui est un peu robotisée. Tu vois, c'est un peu PES,
c'est un peu toujours les mêmes.
C'est 2008, tu vois, c'est. T'as l'impression que tu sais, quand la croix.
Et c'est même un peu tout droit. En fait,
c'est pas
un
mal.
Peu tout droit.
Pour la génération after, c'est pas mal. On va dire que Dembélé, il dribble avec la croix. Mais Lamine Yamal, il dribble avec le joystick.
Oh là, je suis perdu là. Moi.
T'as l'impression.
C'est truc. Pas pour la génération. Moi, pour des démos.
Non,
il a une souplesse de geste, de bassin, de cheville.
C'est une souplesse de cheville, exactement. Et ça, c'est quelque chose que a aussi un joueur que tu vas apprendre à découvrir, qui pour moi est mon jeune joueur préféré, mais déjà depuis quelques mois, voire quelques années, qui est un certain Arda Güler du côté du Real,
qui
est exceptionnel justement dans la qualité technique, vraiment le toucher, le ballon. Tu vois, on appelle ça au Portugal, on appelle ça tuer le ballon. C'est-à-dire que quand le ballon il arrive, le ballon il est mort. Il est mort au pied, il bouge plus, et là
je sais pas bouger.
Voilà, non,
mais bizarre. Lamine Yamal par rapport à Dembélé, c'est qu'il est beaucoup plus imprévisible, en fait.
Après Dembélé, il a quand même les deux pieds,
il est super puissant,
il peut aller à droite, à gauche.
Mais tu vois, Lamine Yamal, il y a quelque chose d'insaisissable, en fait. Moi, c'est pour ça que j'ai payé le mot libellule, tu dis, t'essaies de l'attraper.
Mais je trouve qu'il y a de l'intelligence dans tout ce qu'il a,
aussi la capacité du jeu associatif. Tu le vois sur le but de Daniel Moss, c'est lui qui filtre cette passe.
C'est maîtrisé, c'est connecté.
Ouais, c'est connecté ça. Avec ses partenaires. Moi, je trouve qu'avec le milieu relayeur qui est à ses côtés, le numéro 9 et le latéral
ça,
notamment.
C'est la formation du Barça.
Ouais, oui, mais à cet âge-là, avoir cette parce que tu parlais d'insouciance, mais parfois, moi, je trouve assez mature dans ses choix de jeu, notamment dans les 25 derniers mètres. Quand on voit, on reprend ce match contre le Napoli, moi, où c'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Oui, les matchs contre Mallorca, le Gamper, etc., tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il a fait en Liga, c'est très bien. Mais les fameux matchs TF1 que tout le monde regarde, ce match contre le Napoli, où sur la première mi-temps, les trois situations, les trois actions, c'est lui qu'on cherche en premier, que ce soit Gundogan, que ce soit des joueurs, des défenseurs, le numéro 9, il veut combiner avec lui, Cancelo, la même chose. C'est
avec un gamin de 16 ans.
C'est assez
époustouflant et bluffant. Mais en Liga, si le Barça alors n'a pas perdu deux points qu'il allait perdre contre Majorque, c'est parce qu'il y a un but incroyable de Lamine Yamal.
Il va dans la lucarne.
Il est à droite, il est dans la lucarne. Bah
d'ailleurs, Ranguiri avait fait après ce match l'analogie avec Messi par rapport à ce geste.
Ouais, l'entraîneur de Mallorca.
Ouais, l'entraîneur de Mallorca.
Bon,
ouais.
Pause. Dans un instant, on va prolonger. On va encore revenir sur ce duel Espagne-Brésil, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de Vinicius, notamment d'Hendrick aussi, même si on n'a jamais mentionné son nom. Tiens, il y a Étienne qui nous attend au 32-16. Sois patient, on arrive juste après la pause, mon cher Étienne. Vous écoutez RMC Génération After. Il est 20h56. À tout de suite.
RMC. Atem, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Et je considère Dimitri un des génies modernes du football.
Bonjour, faut pas arriver le matin, manger un bar au chocolat, faire l'entraînement et manger le pizza à 13h.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain, faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Kevin Diaz, Elton Mokolo, Walid Acharchour et Fred Hermel qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Conflit, pas conflit, rencontre générationnelle pour Fredo.
Ouais, ouais, ça fait bizarre. Non,
pas du tout, pas de conflit.
On fera un pas conflit.
Je te montrerai le joystick.
Je vais voir Fred déjà. On a déjà vu Fred sur un terrain. Alors Fred avec un joystick, c'est peut-être encore plus drôle, je pense.
T'as déjà joué à la PlayStation quand même.
Oui, quand même.
Oui, mais j'aime pas trop.
Avec son neveu peut-être, non.
Non, mais ouais, non, je suis pas très fan.
Au moins, ma regarde.
Non, mais moi, en fait, moi, quand j'étais petit, c'était des trucs à cristaux liquides là.
Ouais.
J'avais un jeu qui s'appelait Turtle Bridge.
À Game Boy.
Mais avant les Game Boy. Avant. Non,
c'était la Game Boy, c'est fin des années 90.
Je te parle là, 80.
Lui, c'était pas la Game Boy, c'était le boy qui gagne.
Un temps que Vinicius ne connaît pas également, ouais. Les amis. Trop jeune, encore au cœur d'une polémique après le match d'hier soir, après ses larmes émouvantes en conférence de presse, en veille de match. Il a eu un mauvais geste, moi qui personnellement m'a pas choqué, sur Aymeric Laporte. Qui s'est moqué de lui d'ailleurs aujourd'hui, sur les réseaux. Il a fait peut-être qu'il voulait danser, Vinicius. Voilà, Fredo. Ça aussi, encore une fois, ça alimente les sujets autour de Vinicius, le décalage entre. Ouais. C'est d'ailleurs pas de décalage, hein. Faut pas corréler ses larmes en conf et son comportement sur le terrain.
Non,
mais en fait. Mais il agace quand même. Voilà.
Il agace, mais parce que par son jeu, il agace. Et c'est quelqu'un qui est, quelque part, il a un petit peu du Cristiano Ronaldo en lui. C'est-à-dire qu'il veut toujours gagner à un point que ça devient insupportable.
C'est vraiment
c'est-à-dire,
ça?
Ah ouais, vraiment, c'est un gagneur, c'est un. Et il est, comment dire? Aymeric Laporte, on a rigolé, hein. Faut pas non plus en faire des tonnes, quoi, tu vois. Mais c'est vrai,
c'est vrai que
les Brésiliens, quand ils égalisent sur le pénalty à 3-3, putain, ils célèbrent le but comme si c'était la finale de la Coupe du Monde.
Ça, en revanche, oui.
Mais ça, c'est l'esprit brésilien. Et finalement, moi, j'ai beaucoup de commentateurs en Espagne qui disent, mais c'est bien. Voilà, ces mecs sont compétitifs, quoi. Donc, c'est pas rien de jouer, en Espagne-Brésil au Bernabéu. Et donc, Vinicius, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'il est comme ça. Qu'il est énervant, qu'il est comme ça, qu'il se motive aussi dans la guéguerre avec les autres. Voilà, c'est pas Kaka qui était tout le temps impérial, on a l'impression que rien ne l'atteignait, etc. Il y a des joueurs comme ça, non? Lui, c'est un sanguin.
Mais lui, en conférence de presse, il y a quoi? Il y a 2-3 mois, il avait dit, oui, je sais qu'il faut que je change mon comportement sur le terrain.
Oui, il a que 23 ans, c'est encore un gamin.
Après, on peut dissocier les deux, tout ce qui se passe autour du racisme.
Ah oui, c'est ce que je disais, c'est supportable.
Qui est nauséabond autour de
ça, c'est plus son dernier, mais voilà,
et qu'on condamne totalement. Et après, de l'autre côté, on peut aussi parler de ce que Vinicius est sur le terrain, c'est-à-dire un joueur provocateur avec le ballon, mais aussi dans son body language.
Un peu sale gosse, on peut le dire.
Auprès de ses adversaires. Maintenant, ça ne légitime pas et ça n'autorise pas les supporters à être aussi.
Ouais, t'as raison, c'est deux choses.
Moi, je pense que demain, voilà, tu peux être aussi un supporter adverse qui n'aime pas la provocation de Vinicius tout en restant dans le respect.
Tu peux siffler sans faire les cris de singe.
Voilà,
dans le
respect humain. Et peut-être que lui aussi, parfois, parce qu'il faut qu'il fasse attention, Vinicius, moi, ce qui peut me déranger, c'est si ça, ce rapport conflictuel qu'il peut avoir avec ses adversaires notamment, si ça le dessert dans son propre jeu à lui. Ouais. Ça c'est, ça le sort du match. S'il peut prendre un jaune, s'il peut prendre un rouge, son jeu avec les arbitres, etc. Mais ça c'est un débat annexe, c'est un débat très très différent par rapport
à.
Tu sais ce qui énerve le plus les adversaires, c'est qu'il leur met des vents quoi.
C'est-à-dire sur le terrain, quand tu parles de.
Mais c'est dur pour un défenseur quand t'as Vinicius en face, quoi. Donc, à un moment,
comme Neymar à sa meilleure époque.
Bien sûr, ils sont comme ça parce qu'il y a un côté.
Il y a forcément un problème du côté de Vinicius de gestion des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il a du mal à gérer ses émotions, sur le terrain, quand il répond à une provocation, parce qu'il peut être expulsé, notamment à Leipzig, et là, il met son équipe et lui-même en difficulté. Par contre, bien sûr que ceux qui vont légitimer un quelconque acte de provocation, de racisme, parce que Vinicius est agaçant, ça c'est bien sûr inaudible et insupportable. Mais il y a aussi des joueurs qui sont comme ça. Et j'ai envie de te dire, heureusement, tant que ça reste dans le respect, que Vinicius est chambreur, que Vinicius peut s'énerver après un adversaire. Honnêtement, moi, ça fait aussi partie
de ce que j'aime
dans le foot.
Par contre, comme tu as dit,
je vais te dire, forcément, pour l'avoir vécu, des fois, ça te fait sortir du match quand même.
Tu peux être matrixé, en fait.
Et bien sûr.
Des fois,
tu te matrixes tout seul et tu crois que tu as besoin d'être énervé pour jouer. Des fois, ça te sert. Et
oui, ça peut te servir aussi.
Ça va te desservir.
Tu sais que tu peux donner une rage. Rossellou, l'autre jour, je lui avais dit, mais tu sais, s'il te plaît, calme-toi, on n'a pas envie de finir à 10, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ça qu'il doit apprendre, je sais. Et moi, je m'en souviens, de discussion que j'avais pu avoir avec Carlo Ancelotti, où Vinicius, il a dû apprendre beaucoup, beaucoup de choses quand il est arrivé au Real. C'est-à-dire que, vous vous souvenez.
Il a déjà fait un stem énorme.
Hein. Mais Benzema lui a pris beaucoup, déjà.
C'était quand même. Et puis, Bettoni et Zidane à l'entraînement.
Faut pas oublier la déclaration de Benzema, hein, quand même, dans le
Mais bien sûr, mais oui. Et il n'en a pas voulu. Parce que Benzema, c'était son maître, etc. Mais ils ont beaucoup travaillé. Bettoni, Zidane, Ancelotti. Déjà, techniquement, c'est plus du tout le même joueur qu'il y a quelques années. Oui. Rappelez-vous, Vinicius, c'est le mec qui faisait trois dribbles, super. Ça, oui. Et puis, dans le dernier geste, il faisait n'importe quoi. Il a quand même énormément progressé dans son jeu. Donc, là aussi, il faut faire confiance à l'encadrement qui vont lui permettre d'évoluer et de progresser au niveau de son comportement. Mais vous n'aurez jamais un Vinicius serein sur un terrain. Ça n'existe pas. C'est sa manière d'être.
Bon, ça arrivera peut-être. Roger Federer avait réussi à calmer ses démons. Il cassait des raquettes à chaque match.
Ça, c'est vrai.
Et il a réussi à devenir très calme.
Fredo,
merci, c'est un plaisir de t'accueillir.
J'ai l'impression d'avoir 23 ans là.
Je vais quand même dire un truc sur les Brésiliens. Ouais. Pour avoir joué avec et contre des Brésiliens, on croit qu'ils ont toujours le caractère samba et tout.
Mais non, regarde,
il y a beaucoup de Brésiliens qui sont insupportables, voire violents sur le terrain. J'ai joué contre des équipes de Brésiliens ou contre des équipes portugaises, il y avait beaucoup de Brésiliens.
Il n'y a pas de généralité non plus.
C'est pas que des tricoteurs et des dribbleurs.
Il y a des très bons défenseurs.
Et des rugueux en plus.
Après, on parle de joueurs qui, à 16 ans, ils jouent devant 80, 100 000 spectateurs. C'est-à-dire que si t'es pas prêt pour jouer dans ces contextes-là, t'as rien à faire.
Là, t'en as un autre qui arrive, là, Hendrick. Bah, voilà, on en parlera plus tard, Hendrick. Merci, Fredo.
On aura le temps.
Très bonne soirée à toi.
Adios, Chicos.
À très vite sur RMC.
RMC. OM. PSG. J-4.
Bonne soirée.
J-4 avant Marseille, Paris, Saint-Germain. On a convoqué ce soir Romain Canuti en direct de Marseille. Salut Romain.
La canoute.
Salut les gars, comment ça va?
Ça va
bien, et toi dans ta salle de bain, tout se passe bien?
Non, écoute, on a fait plein de tests, j'ai fait toutes les pièces, si tu me dis que je suis dans la salle de bain, je vais être vexé.
Ça résonne. Mets des meubles chez toi, Romain. Alors, on parle de Marseille-PSG, parce que, alors, tu vas me dire dans un instant s'il y a une grosse inquiétude qui est amplifiée avant l'avenue du PSG habituel. Je rappelle, Ulysse Garcia, out. Pape Gueye, Ismaël Assar, out. Jonathan Clauss, forfait pour 3 à 4 semaines. Absence auxquelles on peut ajouter celle de Rongier, de Bilal Nadir, Jean Onana, Bao Meite, Mickaël Morillo et a priori Samuel Gégaud, tout ça donc avant Paris, mais pas seulement Paris, avant Lille, Nice, Lens et au milieu de la double confrontation contre Benfica. Est-ce que c'est la panique au club? Est-ce que c'est la panique à Marseille, mon cher Romain?
Alors déjà, Nico, je crois que tu en as oublié deux. Il reste encore Leti Ndiaye et Julien Rodriguez qui sont blessés. Bon, tu me diras, ça fait un petit moment. Donc,
c'est le gardien aussi.
Ouais, Simon. Non, Paul Lopez, non, Julien Rodriguez, non, non, bien sûr. Il y a Simon, ouais, c'est le troisième gardien, ça va aller. Mais non, effectivement, il y a plus grand chose. Et effectivement, le troisième gardien, en fait, réflexion faite, il aurait été utile, ne serait-ce que pour faire des oppositions à l'entraînement. Là, ils sont plus assez. Je suis à deux doigts d'y aller moi. Non, c'est très problématique et effectivement, tout le monde est déprimé. En fait, t'as ce truc de te dire la saison là. T'as l'impression que c'est fini avant même d'avoir joué, alors que t'as quand même quelque chose d'excitant à jouer parce que t'avais quand même des places européennes. Là, tout le monde est conscient que troisième, ça aurait été quelque chose de totalement fou. Mais vu la saison, un retour ne serait-ce que dans le top 5, ça aurait été incroyable. Alors, c'est encore faisable, hein. On va pas dire c'est fini et on va déclarer forfait. Mais tu te dis que c'est très compliqué à jouer et c'est très compliqué de commencer à faire des calculs alors que tu as un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est un quart de finale de Coupe d'Europe, ça arrive pas toutes les années à tous les clubs français. Et là, tu vas le faire à reculons, en calculant, en te disant ouais, mais on met peut-être lui, il est pas à 100%, faut qu'il fasse gaffe.
Et tu fais quoi en défense alors juste dimanche déjà, Romain. Qu'est-ce que peut imaginer alors, Jean-Louis Gasset là?
On doit bien en défense centrale.
Je pense, c'est le plus probable. En fait, il y a deux joueurs qui sont aptes vraiment, et on va toucher du bois hein, parce que c'est pas. Il peut se passer encore des choses au rythme où là ça va. Il peut se passer encore des choses d'ici dimanche. Et donc, tu as Quentin Merlin et Chancel Mbemba. Donc, vraisemblablement, tu les mettrais les deux sur les côtés, dans le sens où Mbemba est capable de jouer latéral droit
pour bloquer Mbappé.
Il l'a montré. Mbappé, on a vu l'an dernier, je sais pas si tu te rappelles, c'était Eric Bailly qui était à son marquage dans le système Tudor sur le match de championnat, ça avait fait doubler d'Mbappé et quasiment la fin du parcours de Bailly à l'OM. Donc là, ça va être pas un cadeau pour Mbemba, mais en même temps, t'as pas le choix. Et défense centrale, t'as Kondogbia à faire redescendre et t'as quatre joueurs qui sont actuellement blessés. Et il y en a forcément un qui va serrer les dents et qui va bien se strapper. Donc c'est soit Balerdi, soit Jean Onana qui peut descendre lui aussi, soit Gigot, soit même Pape Gueye. Tu pourrais imaginer un truc où au final ça joue à 5 derrière avec deux des quatre noms que je viens de vous donner qui serrent les dents.
Mais c'est des joueurs qui sont blessés et
qui vont devoir s'accrocher quoi. Tu parles de Jean Onana et de Samuel Gigot qui sont très incertains, ouais, bien sûr. Pas à 100%.
Ouais, alors c'est des douleurs différentes.
Si tu mets Jean Onana, Pape Gueye et Kondogbia en défense centrale, qui tu mets au poste de numéro 6 quoi?
C'est vrai.
C'est pour déshabiller
Paul pour habiller Jacques. Pour déshabiller Jacques aussi.
En plus, il l'avait, Walid. Hein.
C'est le problème d'être à distance. Je t'aurais mis ma main sur la bouche. Là, je t'aurais dit laisse le génie s'exprimer.
Il va tout droit.
Il était lancé.
Oh, je suis nul. Là,
on pouvait avoir un truc créatif. Hein.
Bon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la trêve a tué la fin de saison de Marseille? Je pose la question. Elle est assez caricaturée, assez excessive. Mais sauf qu'on l'a dit, au mois d'avril, j'ai cité le calendrier. Il est très important pour une équipe qui doit refaire son retard en Ligue 1, qui doit rêver un peu plus en Coupe d'Europe. Kevin? C'est foutu pour toi ou pas? Ou alors les 11-12 joueurs disponibles et de haut niveau peuvent faire l'affaire?
Je pense que ça peut être foutu, mais je suis pas sûr que ce soit la trêve qui va tuer la fin de saison de l'OM. Même avec un effectif au complet, il y aurait eu quand même des difficultés au vu des adversaires qui vont se présenter devant l'Olympique de Marseille. Maintenant, après, de toute façon... It is what it is, comme disent les Anglais. Ils vont devoir faire avec. Je sais quoi, Lid, t'as pas compris, mais je t'expliquerai après.
Ouais,
c'est forcément, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour l'Olympique de Marseille. Il faut faire avec cet effectif. Alors, je connais pas la réserve de l'OM, hein, qui est pas très bien classée en National 3, mais il y a peut-être 2-3 jeunes qui peuvent dépanner au moins sur le banc. Mais c'est clair que là, l'OM n'a pas grand chose à espérer avec un effectif aussi diminué et au vu des échéances à venir.
Mais c'est pas la trêve qui a tué la saison de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille s'est quand même mis dans cette situation-là tout seul, de par leurs mauvais résultats, et puis aussi parce que les blessures ne datent pas d'hier. Entre la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations de la part de Longoria, plus les blessures, on se rappelle déjà du mois de janvier qui avait été pour moi charnière pour l'Olympique de Marseille, avec des points...
des points laissés en cours de route. Je me rappelle de Monaco à 10 contre 11, voire même à 9 contre 11 sur la fin de match. Je me rappelle de ce match contre Metz où tu prends un carton rouge très très tôt à la maison. Je me rappelle de ce match contre Strasbourg aussi, le 1 partout où tu mènes 1-0 et ça fait 1-1 avec ces points, avec ces points-là, l'Olympique de Marseille aurait pu peut-être avoir un matelas conséquent ou en tout cas se permettre de perdre contre le Paris Saint-Germain avec des blessures. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que l'Olympique de Marseille est dans une situation ou dans ce calendrier qui va être infernal, ils ne peuvent pas laisser de points parce que c'est des matchs très très importants. Tu vas jouer Lille et si tu veux rattraper Lille là-bas, il va falloir gagner ou au moins faire un résultat positif. La même chose pour Lens, la même chose pour Nice où tu vas les recevoir sur les prochaines semaines. Moi, je pense pas qu'on puisse répondre que ce soit la dernière trêve internationale qui a tué la saison.
Non, c'est un tout. C'est le mercato l'été dernier.
Oui, voilà. C'est la gestion d'une saison.
Dans un instant, on fait une pause. Romain Canotti reste avec nous également aussi. Je te rends la parole dans un instant. Et vous, au 32-16 du Patin Marseille, appelez-nous pour nous dire comment vous appréhendez ce match dimanche soir et le mois d'avril qui arrive pour l'OM.
Va pas les aider. Hein.
Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Elton Mokolo. On est ensemble jusqu'à 22h, hein, à 21h45, le footballeur masqué. Il est prêt déjà. Il est connecté, il faudra découvrir son identité. On parle de Marseille-PSG dimanche soir, l'infirmerie est pleine à Marseille. Dis-moi Romain, je te donne la parole dans un instant Elton, est-ce que on fait presque l'impasse sur ce match à Marseille? Est-ce qu'on se dit qu'on va se faire manger, dévorer, comme ça a pu arriver les saisons précédentes, hein? Je rappelle qu'il y a une victoire marseillaise il y a à peu près un an, au Vélodrome en Coupe contre Paris. Romain.
Ouais, est-ce que tu te souviens, Nico, il y avait un fait un peu particulier sur ce match. Hein. L'OM gagne 2-1, c'était pas non plus une large victoire. Est-ce que tu te souviens d'un petit fait côté parisien sur cette victoire en coupe?
Mais Mbappé était pas là au coup d'envoi.
Oui,
c'est ça,
voilà.
En retard à la causerie, puni.
Non, ça c'était quelques années auparavant.
Ah non, c'est vieux.
C'était quelques années auparavant.
C'est vieux,
c'était 2018, ça. Ouais.
Avec 2018, avec Radio, et quand il était rentré, il avait marqué. Mais non, il était pas là. Et Mbappé, en fait, quand il joue au Stade Vélodrome, alors à part avec l'équipe de France hier soir, quand il joue au Stade Vélodrome, c'est quasiment but à chaque fois, je crois. Il fait 6 matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, et puis 5 buts, 2 passes D. Là, il va jouer dimanche, donc déjà...
Oh,
tu vois,
pas sûr.
Ah ouais.
Bon, t'as suivi l'actualité du PSG.
Je suis preneur,
hein,
auquel cas. Mais pour te dire tout à l'heure, Kevin, ça fait plaisir d'ailleurs de vous retrouver les copains. Kevin disait il y a peut-être des jeunes de la réserve. Alors la réponse est non, parce que pour situer en réserve, on a fait revenir Stéphane Sparagna. Tiens, tu vois, tu parlais de joueurs d'il y a 8 ans, tu es raccord là. Et il y avait Stéphane Sparagna qui est revenu. Je ne sais pas si vous en souvenez, il avait fait quelques matchs avec Bielsa à l'époque.
Il était au Red Star, Stéphane Sparagna.
Il non était au Red Star, ouais, il n'a pas trop joué. Là,
j'ai pas trop vu à Bauer, mais.
Pourtant, le Red Star, c'est.
C'est à Bauer. C'est uniquement à Bauer.
Bien placé. Ouais. C'est à Bauer et c'est avec de beaux arbitres, si on se rappelle le dernier Red Star Martigues. Mais ne faisons pas de digression, mon cher Walid.
Pas ça, Romain.
Et il y a aussi Kassim Abdallah, tu vois, qui a été rappelé pour jouer les tontons qui encadrent en National 3. Donc évidemment, c'est pas pour la, ça peut faire banc sur et ça fera banc probablement, mais voilà, ça peut pas jouer. Soyons sérieux, 2 minutes, sans leur manquer de respect.
Après, ça peut pas. Romain, s'il y a des blessés, hein. Il y a un moment, il va falloir avoir 18 joueurs sur la feuille. Et,
bon, t'as quand même une équipe, t'as quand même un 11.
Ouais, parce que attention.
Elton, Romain nous a quand même dit on va peut-être avoir un joueur blessé qui va s'avancer.
Ouais, mais après Kevin, toi t'es bien placé pour savoir ça. Ça c'est les aléas d'une saison, parce que attention à ne pas non plus nous décrire une situation apocalyptique. Je veux dire par là, il reste quand même 2 mois de compétition. Donc l'Olympique de Marseille, oui, est dans un passage qui n'est pas forcément bien par rapport à l'infirmerie. Mais ça ne doit pas, entre guillemets, interdire le fait que l'Olympique de Marseille doit toujours continuer de suivre ses objectifs, à savoir se qualifier en Ligue des Champions et battre dans un premier temps Benfica. Donc aujourd'hui, oui, il y a des absents, oui, il faut le déplorer, mais c'est pas pour autant que nous, on va excuser, on va tolérer le fait que l'Olympique de Marseille arrive dans une position de soumission face au PSG, parce qu'en gros, l'infirmerie est pleine.
Après le match, tu dois le jouer, le match.
Ah oui. le match tu dois le jouer. Oui, après oui, t'es diminué. Non mais après t'es diminué. Le PSG de toute façon quoi qu'il arrive, même à 11 contre 11, on l'a bien vu à l'aller. Il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Maintenant moi c'est plus sur la suite, notamment le match contre Benfica, la double confrontation contre Benfica où l'OM était quand même sur une belle dynamique en Coupe d'Europe. Et je pense que même si Benfica est dans mon esprit favori, il y a quelque chose à faire. Surtout quand on voit les dernières performances de Benfica, je les ai vues contre Toulouse où c'est pas le grand Benfica de l'année dernière. Et puis derrière, t'as des matchs contre Lille, contre Lens, contre Nice à la maison. Quand tu vois que l'OM est meilleure équipe à la maison en Ligue 1,
c'est ça. L'une des pires est la 16e à l'extérieur.
Voilà, tu dois te donner les moyens de faire quelque chose sur ces matchs-là. Et j'ose espérer pour l'Olympique de Marseille que ces fameuses blessures et ces pépins physiques, à un moment donné, ces mecs-là vont revenir petit à petit. Si c'est juste, on va dire, pas s'aborder, c'est pas le bon mot, pas bazarder, mais en tout cas faire l'impasse sur le match du Paris Saint-Germain. Et encore, j'aime pas ce terme-là, mais si t'as trop de blessés, mais c'est la suite aussi qui va être importante.
Mais non, mais Walid, il y a 65 000 places de vendues pour le match, j'exagère à peine. Donc tu penses bien que le match, non seulement il va se jouer, et puis il y a ce truc très marseillais, mais j'ai envie de te dire, c'est très footballistique de toute façon. C'est-à-dire que là, on est mercredi, on est là à se dire c'est foutu. Et puis jeudi, on va se dire c'est foutu, mais il y a une petite chance. Vendredi, tu vas te dire bon, c'est jamais le football, le fameux, ils ont deux bras, deux jambes, voilà. Samedi machin et dimanche.
Devant le stade, c'est le feu. Voilà, c'est ça.
Il y a bien une année où on peut le faire, c'est celle-là. Tu vas te mettre le feu.
Ouais.
En fait, ça fait penser un peu à la saison Bielsa. Je sais pas si vous vous rappelez de ce OM-PSG,
ouais, bien sûr, oui.
Où en fait, parce qu'un joueur se galvanise et se met à un niveau stratosphérique, c'était le cas de Gignac, t'arrives même à mener à la mi-temps.
Oui.
Et puis au final, la logique est respectée.
T'avais une équipe quand même
rapidement de buts.
T'avais une équipe un peu meilleure.
Mais tu avais derrière, Romao, Morel et Fanny. Et après coup, tu te dis, mais comment on a pu croire avec Romao, Morel et Fanny, et je les embrasse, je les salue, c'est peut-être un qui sera footballeur masqué, si ça se trouve, mais comment on a pu croire que ces mecs-là pouvaient rivaliser face à Ibra, Cavani et Pastore? Ben sur le coup, on y a cru. Ben là, c'est pareil. Peut-être que dimanche, deux heures avant, on va y croire et qu'après, on va se dire comment on a pu croire avec.
T'as raison. Un homme Aubameyang peut créer de l'espoir, effectivement. C'est un homme qui est capable dans ce grand rendez-vous de rivaliser. Tiens, j'accueille Renaud 32-16, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Renaud.
Il faut qu'il soit aidé.
Bonsoir à toute l'équipe de Génération After.
Salut Renaud.
Salut Renaud. Historique de l'After. Il est né avant Génération After, Renaud, sur RMC.
Oui, ben j'ai commencé à écouter l'After en 2006 de mémoire.
Ouais, mais voilà, la première année. Tout à fait. Ça fait juste 18 ans.
J'avais trouvé ça.
Walid n'était pas né d'ailleurs.
Vraiment intéressant.
Je venais de naître. C'est en 2007, voilà. Walid.
Et donc ça.
Alors, bon, comment t'appréhendes ce match? Enfin, est-ce que tu l'appréhendes et comment tu le prépares, toi, émotionnellement?
Alors, il faudra quand même jouer le match, bien évidemment, parce que c'est un match de championnat et parce que les joueurs sont des professionnels. Donc, bien évidemment, les joueurs qui seront sur le terrain, je pense, auront à cœur effectivement de faire la meilleure prestation possible. Par contre, voilà, moi ce qui m'embête évidemment, c'est surtout les blessures. Alors les blessures, c'est pas forcément comment dire, je m'inquiète pas. Mon inquiétude concernant les joueurs blessés ne comment je pourrais dire ça, c'est pas une inquiétude que j'ai par rapport au match de dimanche, justement, parce que moi je m'attends à ce que le Paris Saint-Germain batte Marseille. C'est pas du défaitisme, c'est juste une forme de réalisme. Mais ce qui m'inquiète par rapport aux blessures, comme le disait l'un de nos chroniqueurs, c'est que pour Marseille, ce qui est quand même embêtant, c'est de se dire qu'on va être un peu décimé pour jouer le match, le quart de finale de Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne, contre le Benfica. Je pense que Marseille avait effectivement été dans une relative bonne dynamique au niveau de la Coupe d'Europe, et je pense que mentalement, avec une équipe, avec un effectif au complet, il y aurait eu effectivement une forme de ferveur et de motivation, et je pense que là ça peut-être donner un petit coup de mou, un petit coup au moral par rapport à ce match de Coupe d'Europe qui me paraît plus important, parce que si vous battez Benfica, vous êtes comme en demi-finale de la Ligue Europa, ce qui n'arrive pas tous les jours pour un club français. Ça nous permet de prendre des points à l'indice UEFA. Alors que le match du PSG, bon, à la limite, on le gagne. Bon, bah, les supporters marseillais, la majorité d'entre eux vont être très contents, parce que une espèce de haine ridicule, d'ailleurs, que je trouve, qui a été fondée.
Oui, puis aussi un enjeu au classement. Hein, Marseille doit gagner pour refaire son retard. Hein. C'est pas uniquement prestige, un match étoile, hein, ce match dimanche soir.
Ce qui est dérangeant surtout, c'est cette année, c'est que j'ai l'impression quand même que cet effectif-là, beaucoup de fatigue, beaucoup de pépins physiques quand même. Hein.
Ouais, l'année, elle est poussive, elle est dure.
Depuis
quoi.
Le début de saison. Bah, souviens-toi, Gattuso, quand il avait tiré la sonnette d'alarme en parlant de la préparation physique, en disant on n'est pas prêt.
Enfin, on aurait pu aussi tirer la sonnette
d'alarme. Oui, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais indépendamment de ça.
Bien sûr, mais globalement, entre les blessures longue durée, celle de Rongier qui fait mal à un moment donné, les blessures répétitives, Gigot à un moment donné, Renan Lodi sur les 6 premiers mois, Aubameyang.
Rongier.
Verretou,
Kondogbia, pas mal de blessures. Correa qui a complètement disparu, même si c'est pas plus mal quand on voit son niveau. La fatigue, les retours de Cannes, voilà, tu sens quand même que t'as jamais vu véritablement Klose, Jonathan Klose aussi, les petites blessures, etc. Ça fait beaucoup quoi. C'est dommage pour l'OM de ne pas avoir des joueurs fiables cette saison physiquement quand même.
Ce qui est complètement fou, c'est que cette saison est partie en vrille sur une main à la 95e minute de Guendouzi face au Panathinaikos.
Après, on ne sait pas ce qui se serait passé avec une poule de Ligue des Champions.
Mais quand même.
Ouais. Et après, juste pour répondre à Renaud, notamment sur l'aspect motivation face au Benfica. Sincèrement, Renaud, tu peux même arriver avec Ghislain Printemps sur le terrain. Si t'es pas motivé sur un quart de finale à la maison, 60 000 spectateurs face au Benfica, il y a beaucoup de joueurs qui doivent se poser des questions sur leur avenir.
Vous parlez trop souvent de motivation. On en parlait tout à l'heure sur Kylian Mbappé.
Il est professeur là. Début de phrase, professeur.
Il y a aucun joueur qui rentre dans aucun match en se disant qu'il est pas motivé aujourd'hui. Après, il y a un état mental. Il y a en effet un état psychologique d'une dynamique qui peut être très négative.
Une fraîcheur.
Je vois encore Richarlison là qui parle de dépression.
Mais ça existe les joueurs qui choisissent leur match, Kevin. C'est eux qui le disent.
Choisis pas jamais un match de l'équipe de France pour faire le laisser passer ou un match de quart de finale de Ligue Europa. Le seul match que tu choisis quand t'es professionnel, je te le dis tout de suite, hein, tu peux le noter, c'est un match de Coupe de France contre une R1 ou contre une nationale 3 que t'as pas envie de jouer.
Mais un match de Ligue 1.
Tu dis. Interro quand tu reviens
quand t'es un joueur professionnel. À part un match de Coupe de France ou une division inférieure, le 2 janvier ou un match
tu parles doucement parce qu'il écrit en même temps
le trophée Gamper au Barça.
Ok, prof.
Mais sinon il n'y a aucun match que tu laisses passer quand tu es un professionnel et que tu as une prime de match de plusieurs millions
d'euros. Juste à 22h, si vous pouvez me rendre mon carnet de liaison, c'est mon papa.
Je te laisse ton carnet une fois qu'on aura vu ton éducateur qui va venir après.
Le CPE c'est Romain ce soir. Merci Romain.
Merci Romain.
Merci les gars, bientôt. Salut, et Romain. En présentiel, hein, bien sûr.
Bien sûr, évidemment,
j'ai
Romain.
La leçon, salut,
Romain.
Encore une fois.
Merci à Renaud également d'avoir fait le 32-16. C'est bien, t'as baissé la tête, t'as écouté.
Elle était pour Elton aussi, celle-là.
Ah, d'accord.
Tu sais, quand tu commences par. Vous devez comprendre une chose, les gars.
Ouais, non, mais arrêtez. Ou sinon, le arrêtez.
Arrêtez.
Non, mais arrêtez.
Non, mais je voulais. Comme je l'ai dit aussi. C'est très coûteux, ça.
Exactement.
Comme je l'ai dit il y a 3 mois et demi. Sinon.
Mais ça n'existe pas.
Allez,
c'est vrai.
On revient dans un instant, pause sur RMC et dans Génération After. On va parler foot et éducation et résultats scolaires.
Et bah c'est
ça
bien.
Vous intéresse, vous les cancres.
À tout de suite sur RMC. On va vite sortir ton cahier.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo, Walid Acharchour, on est ensemble jusqu'à 22h. Dans un cadre, le footballeur masqué nous attend. Il est patient, il sera avec nous. Ce sera à vous de jouer les gars, les questions à poser. J'ai failli dire son nom en fait, c'est pour ça que j'ai bugué. J'ai failli balancer son blaze.
J'ai vu en toi, ouais.
T'as vu le truc?
Ouais, je l'ai vu.
Le petit malaise là?
Et je l'ai, c'est bon.
Bon.
Je suis mentaliste.
Vas-y, donne.
Je le garde après.
Rien te vient là. J'accueille notre invité ce soir dans Génération After, Marine Kolić est avec nous. Salut Marine.
Salut.
Heureux de t'accueillir.
Prof, Salut Marine. Salut Marine.
Prof de PS depuis 20 ans au collège Jean Villard de Villetaneuse, qui est en zone REP+.
Ça.
Tu viens nous parler d'un projet foot que tu as lancé dans ton collège et grâce à ça, les résultats scolaires sont spectaculaires. Je précise aussi que tu es un ancien coach de foot en fédéral, diplômé BE2, comme Kevin d'ailleurs, je crois.
Ouais, c'est à peu près le même niveau, même si ça a changé de nom.
Ça a changé de nom, c'est ça?
C'est ça, BE2, DES, DEF. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc pas de leçon de foot à Marine, mon cher Kevin. Là, c'est au niveau. Le diplôme qui est juste en dessous, d'ailleurs, je précise, du DEPF, hein, qui permet d'entraîner une Ligue 1, par exemple, ou une Ligue 2. Je crois d'ailleurs que tu as été le coach d'un des gars autour de la table, ici.
C'est vrai.
Un mec qui est à ta droite.
À ma droite.
Qui a plus beaucoup de cheveux.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Modèle.
C'est vrai que c'était mon coach au sein de l'US. C'est une Union Sport en moins de 15.
C'est ça, en 2008, je crois.
Ouais, en 2008,
et tu sais quoi? Ce sera pour la fin,
ouais.
Mais il est venu avec un carnet de notes
ouais.
et de statistiques.
Ah, il doit pas en avoir beaucoup.
Marine, il a gardé tes stats.
Mais non, c'est impossible.
Tes stats, donc on est quoi, 15 ans après?
Ouais,
16 ans après.
Le chat est en ébullition. Le live est passé de 2 à 4 000 personnes.
Ouais. Non, moi, j'étais pas un genre de stats, moi.
Ah ouais?
Ouais,
on va voir si c'était un crack ou une fraude. Ah ouais. Voilà, le masque va tomber ce soir pour toi aussi.
D'accord.
D'abord, parlons de ce projet Marine assez spectaculaire. Tu l'as lancé il y a 4 ans. En quelques mots, en quoi il consistait, justement?
L'idée, c'était de réussir à capter les élèves avec le foot. Leur dire, voilà, on va faire un projet autour du foot. Est-ce que vous accrochez? Et forcément, tu poses la question et répondre tous. Oui.
Tu leur dis ça comme ça? Ouais. Certains ont pu croire FIFA ou...
Non, les petits s'inventent une vie, tu leur dis foot, ils partent tout de suite. Alors, je parle ici en Seine-Saint-Denis, hein. Tu leur dis foot, ils partent.
D'accord.
Alors, après, derrière, tu mets ce que tu veux. Après, derrière, tu diriges le projet, tu cherches des appuis, des soutiens financiers, l'appui de ta direction, des collègues. Mais tu dis foot et après, les petits, pour de vrai, ils partent.
C'est pour ça que tu as fait cette proposition-là. Tu dis, ils vont accrocher, il faut que je les accroche. Ouais, non, c'est des gamins qui accrocheront moins dans leur scolarité, peut-être.
Moi, j'en ai fait, comme je disais, le foot dans le fédéral, foot à droite, à gauche. Au collège, à un moment donné, je faisais tout sauf du foot. Après, à un moment donné, je disais, on va tenter un projet avec un collègue, on va tenter du foot. Et donc, on a monté le projet sur une classe, on va essayer de monter une classe, on va utiliser le foot comme, on leur a dit foot comme support. Après, c'est du futsal. On leur a dit futsal, mais c'est comme ça, monsieur, on n'est pas dehors. Je dis, non, futsal. Il n'y avait pas trop de différence. Donc après, les petits, on leur a dit, vous allez avoir du foot une heure par semaine.
Mais par tu contre, commences comme ça. Tu leur dis pas tout à ce moment-là du projet. Voilà.
Non, tu leur dis pas tout. Mais par contre, contrepartie. Je fais attention si ça part en vrille dans les autres cours. On calme. Soit tu peux être sanctionné, sur la séance, tu peux être sanctionné sur autre chose. Et les petits adhèrent. Et les petits sont contents. Ils font des séances type club. Alors on prend dans l'EPS, on va pas faire des grands débats, mais des vraies séances type club avec, on a la prétention de faire des bonnes séances. On a du matériel. D'après, on les emmène à la première année visiter le Stade de France, on les emmène aller voir un match au Parc des Princes, les féminines.
Donc, en fait, c'est une thématique foot, c'est pas uniquement moi, prof de sport, je vous propose qu'on fasse l'année à jouer au foot.
Non, non, pas du tout.
Sur vos heures de sport.
Après, on l'a utilisé. Après, d'ailleurs, on a dit, bon, l'année suivante, on leur a dit, bon, vous allez jouer. Par contre, maintenant, il va falloir aussi arbitrer. Vous avez passé un diplôme d'arbitrage. Ah. Après, on leur a dit aussi, vous allez jouer, mais par contre, maintenant, pendant le gymnase, pendant une demi-heure, il n'y a plus le droit de parler en français. Obligation de parler en anglais.
C'est pas un peu galère au début, quand même, quand ils sont en sixième, t'as comme, tu faisais
en sixième. Là, ils sont en cinquième. Et là, les temps modernes. Il n'y a pas un bruit dans la salle. Ils ont pas parler modernes. Français, mais ils peuvent pas parler français, ils peuvent pas parler anglais. Ça n'a pas un mot qui sort. Donc, au début, c'est un quart d'heure. Donc, c'est un quart d'heure de silence. Après, ça sort. C'est juste des, mister, yes, sir, des petits sont canailles.
Ah, il attaque the ball.
Voilà.
Non, et après, t'as la fékir après.
Ouais, après, non, mais après, voilà. Après, c'était l'arbitrage. Ça, on leur dit, mais tu arbitrais. T'as juste à dire qui est la balle à compter en futsal, justement, 4, 3, 2, 1, compter en anglais. Faire reculer un joueur derrière la ligne. Après, ils disent, t'as les lignes sur terre, ok. Yellow line, please. Mais tu sais, les gamins se prêtent au jeu, mais ils sortent. Après, on n'a pas fait des anglophones. Hein. Mais juste, ils ont cassé une barrière, ils parlent un peu. Après, d'ailleurs, on a bossé avec une collègue, une journaliste, Hortense Leblanc, pour ne pas la nommer. Elle a bossé avec eux, elle a appris à comment on fait une interview, comment on répond à l'interview, comment on écrit un résumé avec l'histoire du titre, le chapeau, juste après un match.
Tout à fait.
Derrière, après, on a interviewé un ancien international croate. Alors, on a cherché un peu, on leur disait. Et ils voulaient Luka Modric. On leur proposait Perisic. Je me disais, c'est qui? Je le connais pas. Je suis irrespectueux.
Ils sont durs.
Ils sont durs. Alors après, finalement, Et finalement, on a eu Franco Andrijašević qui jouait Rijeka en Croatie, en Belgique à Genk, qui a joué l'Europa League. Ils ont préparé l'interview avec Hortense. Ils ont posé des questions en anglais.
En anglais.
En anglais. Alors, ils disaient, après, c'est un sketch. Ils viennent avec la question écrite en anglais. Lui, il répond en croate. Moi, je fais la traduction le lendemain et tout le monde. Voilà, on a tout enregistré. Après, on a bossé sur l'alimentation, mais toujours un peu avec le foot. Et là, cette année, on les emmène à la rentrée. Là, ils sont en troisième. On les emmène en Croatie une semaine.
Waouh.
Ils vont jouer.
C'est la cerise sur le gâteau. C'est même la carotte presque.
Ouais, c'est la carotte de l'année. Parce que cette année, après, il y a l'orientation. Il y a pas mal de choses à faire. Ils sont en troisième. Faut gérer l'orientation. Faut gérer certains diplômes comme PIX, ces trucs informatiques, la SSR. On leur a dit, voilà, il y a le séjour en Croatie. On part une semaine. On va jouer. On arrive, je crois, lundi soir. Mardi, on joue contre des élèves croates. Des petites sections, parce qu'on a dans la classe, on a comme 13 filles et 11 garçons.
Donc, une majorité de filles.
Majorité de filles. Donc, en fait, les filles jouent aussi. Donc, au début, c'était la sixième, c'était comment réussir à leur faire accepter de jouer ensemble. Au début, c'est impossible pour un garçon de se dire ensemble, je joue avec les filles et les filles. Pareil, et elle aussi, pour elle, c'est impossible, je ne vais pas pouvoir jouer avec des garçons. Et après, tu vois, les filles progressent techniquement, les garçons se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas si forts que ça. Et qu'ils peuvent jouer. Au début, tu fais jouer un garçon, deux garçons, puis après, c'est là-bas, les circulent, ça joue et ils se rendent compte que.
Et donc là, ils vont aller en Croatie une semaine fin avril. Ils vont visiter le stade de la Djouk, la Djouk Split.
C'est vrai.
Découvrir la ville avec les tags ultra. Explication historique également de la Torcida, la guerre de Yougoslavie. Voilà, il y a toute une dimension aussi historique, pédagogique. Et surtout, ce qui est spectaculaire, c'est que ce projet-là, eh bien, a produit des effets sur leur niveau scolaire. Moi, ce que je disais, c'est que sur les quoi? Donc, sur les 24 élèves, il y en a 17-18 qui ont obtenu des mentions au conseil de classe.
Voilà, c'est, alors, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On a fait de la magie, mais pareil, c'est un fait. Voilà, c'est vrai que sur classe, au deuxième trimestre, t'as 24 élèves, t'en as 18 qui ont reçu une récompense type encouragement, compliments, félicitations.
Sur l'ensemble de leur discipline, de leur année scolaire.
C'est pas que chez moi, c'est pas qu'en EPS.
Ce qui est au-dessus de la moyenne, en général, les autres classes, ou pas?
Ouais, sincèrement, après, c'est pas des stats, mais pour, après, c'est la meilleure classe que j'ai jamais eue, et je leur dis, hein. Alors après, c'est...
Et comment tu l'expliques, ça? C'est quoi? Pourquoi? Parce que si tu bosses l'anglais et le sport, ça veut pas forcément dire que tu seras meilleur en maths, en histoire géo ou en...
Non, mais c'est la phrase, le groupe vit bien.
D'accord.
La classe est bonne. Ils ont bossé quelques profs. Les profs les ont vus. Les gamins voient les profs venir au gymnase. Et ça, déjà, tu vois, ça, c'est une barrière. Les profs voient les élèves ailleurs que dans une salle, au gymnase aussi. Après, les profs, des fois, nous accompagnent sur les sorties. Si tu dis, tu vas au Parc des Princes, mais tu vas au Parc des Princes, match, il est à 20h et tu pars à 70e parce que tu sais que tu vas peut-être pas attraper, tu dois prendre la 9 et la 13. Et il faut apprendre à attraper le dernier tram. Donc, des fois, t'as une collègue d'anglais qui nous accompagne. On est parti aussi voir France-Croatie au Stade de France. Vraiment dans le cadre du projet autour de la Croatie. Donc, après, t'as une relation qui se crée et le gamin marche vachement à l'affectif. Enfin, nos gamins, après.
Ouais. Et au collectif aussi, à l'ambiance de classe, quoi.
Ouais, l'ambiance, ça a bien pris. Après, je te dis, en 5e, il y a 3 gamins qui ont été exclus de la classe. À un moment donné, on leur a dit aussi, comportement est pas bon, vous avez pas joué le jeu, contrat, pas. Et sur les 3, il y en a un qui est rentré en 3e, à nouveau, il est revenu. Donc, il était en 4e. Il a pris un an.
Un enfer. Une classe classique.
Voilà. Et les gamins ont demandé, il y en a un autre qui a repris un an. Et là, on l'a intégré, il a pas joué le jeu. Et les gamins ont fait, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, faut le chercher, faut ramenez-nous. Je veux le nommer là. Ramenez-nous Jérémy, on veut Jérémy. Et vas-y, on va vous le chercher. Et après, petit contrat, le petit, il est venu là. Et après, voilà, après. Ouais, ça se passe bien en général, ça se passait super bien avec moi, ça se passe bien avec d'autres collègues. Après, on bosse à, encore une fois, je dis à plusieurs. Le collègue, l'appui de la direction, conseil départemental qui nous suit, le projet autour de la Croatie, c'est un projet du conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Avec des subventions.
Des subventions, l'air de la guerre.
C'est où? C'est à Viltaneuse?
À Viltaneuse.
Oui, t'es de Viltaneuse, c'est ça.
Ah, pas loin de.
Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, les gars?
J'ai plusieurs questions pour moi. Est-ce que ça a vocation à durer dans le temps? Est-ce que c'est pas circonstanciel? Parce que t'as évoqué le groupe, c'est un groupe qui était à part. Est-ce que ça peut se reproduire avec d'autres groupes qui seraient davantage réceptifs? Et est-ce que, dernière question pour moi qui est tout aussi important, est-ce que le fait de sortir d'un cadre classique, c'est-à-dire on n'est plus en salle de cours, ça les a aidés justement à s'épanouir davantage?
Moi, j'ai le sentiment, pour répondre à ta dernière question, que ça les a, ils ont gagné en autonomie, ils sont gagnés en maturité, ça c'est vrai. Est-ce que ça va se pérenniser? On a une classe de 3e cette année qui part en Croatie, mais on a une 4e et une 5e aussi. Après, t'as une question de moyens. Alors, en ce moment, c'est le débat dans les moyens de l'école. Après, t'as aussi une autre question, c'est l'épuisement. Je vais pas te mentir, ça prend du temps à organiser, ça prend temps à gérer. Là, en ce moment, voilà, je suis pas dans le fédéral parce que je suis là-dessus. Je sais pas où je serai l'année prochaine. Après, j'ai une vie de famille aussi. Après, on va essayer de trouver d'autres collègues. Après, j'ai des collègues en appui. J'ai des collègues qui sont un peu moins chauds parce que trop de foot, toujours le foot, encore le foot.
Alors, on n'aime pas quand le prof de PS prend autant de responsabilités.
Dans ce genre de projets qui sont bien sûr exceptionnels, quand on arrive à associer l'éducatif avec le sportif, on sait que ça marche, hein, peu importe les générations d'ailleurs. Mais est-ce que vous sentez quand même que c'est valorisé justement, que ce soit par l'éducation nationale ou même par le conseil général, peut-être même par la Fédération française de foot?
Non, je peux pas me plaindre sincèrement. Non, si c'est valorisé, on le voit, moi je le vois tous les jours au collège. Une fois, j'ai dit l'appui des collègues qui se proposent pour nous donner un coup de main, les gamins, les parents. À la base, je fonctionne avec les gamins, les parents. Là encore aujourd'hui, j'ai reçu des messages sur WhatsApp d'une mère d'élève qui me demande un conseil pour une fille que j'avais au futsal il y a 4 ans, mais j'ai sa petite sœur là justement qui est en 3e. Non, pour tout, au conseil départemental, mais je monte des projets.
Non, mais bien sûr, c'est important de le dire aussi que non, il peut y avoir aussi quand on a un projet de la valorisation.
Bon, alors c'est le feu sur le chat. Ça réagit, ça salue l'initiative évidemment, magnifique.
C'est dingue, franchement.
Il y en a qui nous dit, NG nous dit, nous, on est universitaire, ils nous ont emmenés à Reims, maintenant c'est la Croatie, quoi. Voilà. Et puis beaucoup s'interrogent sur le niveau réel de Walid quand il avait 14 ans. Alors, il y a beaucoup de spéculations, on nous dit, Walid, à mon avis, il faisait ish, nous dit Atem, au City Stade. Oui, non.
Non, j'ai pas de ish.
Ça m'est déjà arrivé. Marie, je dis Walid en 10 joueurs frissons, style caca.
Non.
Il était qui? Il était quoi?
Milieu de terrain.
Milieu de terrain.
Axial, hein. Offensif.
Évidemment.
Numéro 10?
Numéro 10.
Non, après, profil, problème, c'est que Walid, je peux en parler. Il a oublié, il a longtemps, mais tu vois, pour de vrai, c'est les vraies stats. Hein. Walid mesurait en septembre, donc en 2007-2008, 1m57, 42 kilos.
Non.
Si, c'est vrai, c'est
retard
vrai.
De croissance, c'est je pense que c'est pas. Voilà, mais plus petit que les autres, plus
les gens, les gens me croient pas quand
et là, aujourd'hui, tu fais 1m80 à peu près?
Ouais, 1m78 et 99 kilos.
Voilà, c'est ça.
42 kilos au début d'année, 48 kilos en fin d'année, il a pris 6 kilos, ouais. Pour de vrai. Après, il y avait un groupe de 31 joueurs, j'ai fait partie des 5 plus petits. Après, il y avait à l'époque, il y avait une DH en première, nous, c'était équipe réserve, on essayait de faire jouer au début, maximum de première année, maximum de deuxième année. Après, il y avait une belle génération. Dans la génération dessus, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait Roussillon.
Ouais, Jérôme Roussillon.
Ah oui, quand même.
Il y avait Jérôme Roussillon.
Et au niveau des techniques, tu as les stats de jonglage, tu ne savais pas.
En début, pied fort 78.
Ouais.
Pied faible 12. Tête 10. Attends.
Tête 10, c'est pas mal.
Attends,
mais quoi, on parle sur 100, on parle de quoi?
On n'a pas fait bosser beaucoup.
10, 10 de la tête, c'est pas mal.
Eh, pour un enfant. On a refait le test. Pied faible, pied fort 142.
Pied fort 142.
142, fallait monter en arrière.
Pied faible, pied fort, les deux.
Pied fort 142. Pied faible 35.
Pas mal.
Et tête 29.
On parle de jonglage. Ah ouais, 29 dans la tête, pas mal, garçon. Ouais. Bon voilà, on en sait plus sur Walid également.
Ouais, c'est Bourgie après.
Et sur
moi, je me rappelle de la première phrase de Marine quand je suis rentré dans le vestiaire ou la deuxième. Elle m'a dit, Walid, tu vas pas me faire comme les autres, moi. Tu vas prendre le ballon, tu vas le lâcher. Si j'avais des gros problèmes, c'est-à-dire que j'avais cette
habileté. Ouais, c'est fou, c'est comme à l'antenne en fait. C'est comme dans Génération
After. Si tu veux jouer avec moi, va falloir que tu fasses vivre le ballon. J'ai pas beaucoup joué.
Voilà Marine. C'était un plaisir de t'accueillir. Tiens, tu peux rester avec nous dans un instant. Si on va jouer, c'est le footballeur masqué. On va devoir découvrir l'identité du footballeur qui se cache derrière le masque. Reste avec nous. C'est Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo et les Cherchour, et notre invité Marine Kolić. C'est parti pour le footballeur masqué.
RMC, le footballeur masqué.
Alors attention, on investit les amis. Là, on a une vraie machine qui trafique les voix.
D'accord.
Vous n'allez pas pouvoir reconnaître sa voix.
Ok.
Sachez-le. D'accord. Il n'y aura pas de nouveau Ludo Bragnac.
Ok. Ok.
Donc, je rappelle le principe. Comme depuis le début de la saison, vous posez des questions. Vous devez trouver l'identité du footballeur masqué que j'accueille. Bonsoir, footballeur masqué.
Bonsoir.
Ah ouais, c'est beaucoup mieux là.
J'aime bien.
Il y a un sourire dans la voix quand même. T'as quand même le ton.
Ouais.
Alors, c'est parti. Kevin, ta première question.
Bonsoir, footballeur masqué. Je voudrais savoir comment vous vous appelez.
Non, ne tombez pas là-dedans.
Non. Est-ce que vous avez joué en France?
Oui.
Okay. Elton.
Bonsoir, footballeur masqué. Est-ce que vous avez joué en Ligue 1?
Oui.
C'est bien, on démarre par l'essentiel.
Bonsoir, footballeur masqué. Est-ce que vous êtes champion de France?
Non.
Non?
Kevin.
Marine.
Marine?
Oui.
Avec le micro, on va l'ouvrir. Vas-y.
Bonsoir, footballeur masqué. Êtes-vous un international?
Oui.
Du coup, vous êtes un international français?
Oui.
Ah.
Est-ce que vous avez fait une grande compétition Euro ou Coupe du Monde?
Oui.
Est-ce que vous avez connu Raymond Domenech?
Est-ce que vous êtes Eric Abidal? Est-ce que vous êtes Eric Abidal?
Non, tu vas trop vite. Chacun son tour. Elton.
Est-ce que vous avez connu Raymond Domenech?
Oui.
Est-ce que vous étiez à Anaïsna?
Je sais qui c'est.
Tu poses la question après.
Okay.
Est-ce que vous avez joué à Chelsea?
Mais t'es insupportable.
J'ai reconnu.
Mais laisse. Vas-y, Walid.
Est-ce que vous étiez à Anaïsna?
Non.
Kevin, vas-y, pose une question.
Est-ce que vous avez joué à Chelsea?
Non.
Et ben voilà, tu l'as pas.
Voilà, alors, arrête. Déjà, t'es chiant et en plus, t'es nul. Attends, du coup,
la voix, elle est bien trafiquée.
Bah oui.
Donc c'est Coupe du Monde 2006. Est-ce que vous avez fait la Coupe du Monde 2006?
Non.
Est-ce que vous avez joué en Angleterre?
Ah non.
Oui.
Je
vois. Donc c'est. Vous avez fait l'Euro 2008?
Non. Oui.
Est-ce que vous êtes défenseur?
Non.
Faut tourner là. Question, Kevin.
Bah, est-ce que vous êtes attaquant?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous avez joué à.
Ah, c'est ce que vous êtes, Bafé-Gomis. Bafé-Gomis.
Oui, c'est bien ça.
Ah, c'est ça. Bravo, Walid.
Bafé-Gomis.
Bonsoir Baffé.
Oh, Baffé. Bonsoir.
Plaisir. Ah, c'est cool de retrouver ta vraie voix, ça fait plaisir.
Je suis persuadé que c'était William Gallas.
Tu trouvais que c'était William Gallas? Eh ben non, c'est Baffé.
C'est beau d'avoir Baffé Team Wigan.
C'est beau, il est avec nous, Baffé.
C'est magnifique.
Très beau.
C'est un plaisir.
Plaisir de t'accueillir dans Génération After, Baffé Team B. Bon, t'as pris du plaisir à ce petit jeu-là? On t'avait déjà fait ou pas? Non?
Ouais, non, non, c'est une première.
Là, je me rappelle de ce doublé contre la Colombie qui t'emmène en 2008.
Ah bah oui.
Là, Toulouse.
Équateur.
Avec le maillot rouge.
Ouais. Ouais,
exact. Ouais. Un bon
souvenir. Il y a beaucoup de souvenirs. Hein. Ouais. Baffé, énorme joueur de Ligue 1. Ouais. 12 sélections en équipe de France, 3 buts, une Coupe de France 2012 avec Lyon, 2 fois champion de Turquie avec Galatasaray.
Sacrée carrière.
D'Arabie Saoudite avec Al Hilal, notamment vainqueur de 2 Ligues des Champions Asiatiques aussi. Actuellement joueur du Kawasaki Frontale au Japon depuis l'été 2023. Baffé, tiens d'abord les nouvelles. Comment ça se passe pour toi là-bas au Japon? Est-ce que tu kiffes l'expérience?
Ça va. J'aime beaucoup l'expérience de vie. En famille, d'être en immersion au Japon. J'avais fait le choix de voyager avec la famille pour découvrir une nouvelle culture parce que j'avais joué pas mal de temps en France, donc j'avais fait un peu le tour avec le nombre de clubs que j'ai fait. Et puis en ayant gagné toutes les titres individuels et collectifs en Turquie et en Arabie Saoudite, donc je voulais découvrir un nouveau pays pour terminer en beauté et en famille, parce que à nos âges c'est la famille qui reprend le dessus et c'est important de pouvoir, le football nous permet de voyager et découvrir du pays.
38 ans, je le précise, hein, encore Baffé. Bon, pour ceux qui nous rejoignent aussi, Baffé, c'est Saint-Etienne, bien sûr. Hein, on nous écrit la Panthère, évidemment, avec la Saint-Etienne. Un passage à 3, rapide, Lyon, Swansea, Olympique de Marseille. 34 matchs, 21 buts à Marseille.
Ouais, il a laissé
34 matchs, 21 buts à Marseille.
2016, hein. Il a laissé une grosse empreinte
à l'OM.
Dans les analyses, parce qu'à chaque fois qu'on parle des numéros 9, on dit que le dernier numéro 9 qui a bien planté, c'était Baffé Team Bigo.
Mais surtout que lui, il était à cheval sur l'Olympique de Marseille pré. Et avec l'arrivée de Matt Court.
Ouais.
Tout à fait.
Il arrive cette saison-là.
42 matchs chez Galatasaray, 32 buts, voilà. Bon, gros scoreur, gros buteur Baffé. On a un quiz express à te poser, parce qu'on adore revenir sur la carrière de nos invités, d'un footballeur masqué. Plusieurs questions à te poser. Tiens, tu réponds du tac au tac, Baffé Timbi. Quelle est la meilleure équipe dans laquelle tu as joué?
Bon, je pense que c'était le Lyon qui est allé en demi-finale de Ligue des Champions.
2010.
Ouais, 2009-2010. Ouais.
Et vous battez Bordeaux en quart de finale. On s'en souvient souvient vraiment. L'attaquant, le défenseur qui t'a posé le plus de problèmes. S'il fallait en ressortir un.
Oui, Pepe Ramos. Ouais. La charnière Pepe Ramos.
Ah bah oui. Tout simplement.
Oui, ça, je pense que.
Allez, commencez par.
Ouais.
Bon.
Je pense qu'on est d'accord.
Ouais, Pepe Ramos, lequel était le plus dur sur l'homme, tu dirais?
Pepe était plus méchant, plus agressif, plus tranchant.
T'avais mis un but, un partout, je crois, match aller. Ouais, match aller de Ligue des Champions à Gerland,
ouais.
Ouais, je me rappelle de ce match-là, ouais.
Quel est le joueur avec lequel tu as joué qui t'a le plus impressionné?
Bon, il y en a eu beaucoup, ça serait manquer de respect à certains. Mais je vais en citer un parce qu'il a pas eu la carrière que les autres ont eu, Pascal Feyduno. Mmh. Mais sinon oui, Benzema, Ribéry, c'était très fort. Blaise Matuidi aussi, par sa progression, il a été il est allé très haut, très loin.
Ouais, tu l'as connu à 3, c'est ça, Blaise? Ouais, c'est ça.
Saint-Étienne aussi. Son évolution.
Kevin, avec le micro.
Bon, Baffé, la question que tout le monde se pose, en tout cas dans le sud de la France, est-ce que tu regrettes de ne pas être resté à l'Olympique de Marseille?
Non, je regrette pas. J'avais un prêt de un an et je devais me relancer et aider l'Olympique de Marseille à se qualifier pour cette Coupe d'Europe. J'ai rempli ma part du contrat et puis je devais repartir comme il était prévu. Donc après j'ai vécu.
Tu sais que eux ils regrettent.
En Turquie.
Tu sais que eux ils regrettent. Les supporters pour beaucoup.
Bon, c'est l'histoire du football. On peut pas refaire l'histoire. Mais maintenant je suis un supporter de l'Olympique Marseille. Je suis tout cœur avec eux pour qu'ils puissent avec nouvelle, la nouvelle entraîneur puisse réaliser des bonnes choses et que l'Olympique de Marseille retrouve sa place.
Elton.
Bafé, quel est le coach qui t'a le plus marqué?
Le plus marqué, je dirais, il y en a plusieurs encore une fois, mais je dirais Antonetti, parce que c'est le premier, c'est celui-là qui m'a permis de pousser une carrière de footballeur professionnel.
À Saint-Étienne.
C'est lui qui m'a donné la chance de pouvoir évoluer au niveau, donc je vais citer Antonetti si je t'en citais qu'un, mais bien sûr j'ai appris de tous mes entraîneurs.
Quel est ton, on nous demande là sur le chat de la chaîne YouTube, si tu avais un regret, ce serait lequel dans ta carrière?
Un regret, bon, j'en ai pas parce que bon, je pense que il y a des choses que j'ai bien faites, il y en a d'autres que j'ai mal faites et ça m'a permis d'avancer, de tirer des conclusions et d'apprendre, mais j'en ai pas.
T'as joué à Gerland, t'as joué au Vélodrome, t'as joué à Galatasaray, à Geoffroy Guichard, au Stade de l'Aube aussi à Troyes. Quelle est la plus grosse ambiance selon toi parmi ces stades?
Galatasaray. J'ai eu la chance de jouer encore dans de nombreux stades avec le Stade Vert, avec le Stade Gerland où on a eu des belles campagnes et notamment ce match contre le Stade Madrid où il y avait une bonne ambiance, le Vélodrome. Mais les ambiances tupes sont pas comparables avec toute cette passion ou même les vieilles qui chantent. C'est Galatasaray les meilleures ambiances.
C'était bien fait, Timmy Gomis de Génération After. C'était un plaisir. Je remercie également Wasserman qui nous a permis de t'avoir avec nous ce soir en direct dans Génération After. Merci, Bafé.
Merci, Bafé.
Quand tu passes à Paris, n'hésite pas, tu viens en studio également. Et puis, tiens, il y a plein de messages de Toulonnais qui te saluent, bien sûr. Parce que tu es une légende au Sporting Club de Toulon.
C'est notre Ligue 1, Bafé, Timmy.
L'enfant de la Seine-sur-Mer. Merci, Bafé. Très bonne soirée. À très vite.
Ciao.
C'est patrimoine Ligue 1, là. Là, on est totalement patrimoine.
Ah, c'est notre Ligue 1, c'est notre enfance, notre adolescence.
Ouais. Les années 2000-2010. Tout à fait. Voilà. On s'est régalé, c'était Génération After, dans un instant l'After. Merci Elton, merci Kevin, merci Walid, merci Marine, bravo pour ce que tu fais dans ce collège. Ouais. Et puis n'hésite pas, si tu veux qu'on intervienne parfois dans ton collège, on va venir, avec plaisir.
Attention.
Ah mais non, pas attention, on va venir.
Et tu vas me donner les stats là, je vais les encadrer quand même. Parce que les 44 kilos là, j'aimerais bien m'en rapprocher.
Dans un instant l'After avec Thibaut, avec Stéphane Guy et Flo Gautreau. Bonne soirée à tous sur RMC, l'After continue jusqu'à minuit.